Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jerry. J'espère que vous allez bien les potes, hein? J'espère que ça groove bordel de merde, hein? Yeah, merci tout le monde d'être là, d'écouter un autre épisode du What's Up Podcast. Super content, je m'appelle Jerry, c'est moi l'animateur. Gros merci à tous les membres Patreon. Hein, qui sont abonnés sur le Patreon. Si vous voulez aller le faire, si vous aimez le podcast, vous voulez encourager que je continue à le faire, ce projet-là, allez vous abonner au Patreon, c'est patreon.com/whatsuppodcast, tout ça, écrit ensemble. C'est pas cher, c'est 2-3 piastres par mois, puis moi, ça peut me permettre, entre autres, de pouvoir faire ce projet-là. Fait gros merci à tout le monde, puis aussi, ouais, si vous voulez... allez liker, allez vous abonner à la page Instagram, Jer Alain, ou sinon page Facebook. Si vous aimez le podcast, allez donner un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et ouais, c'est pas mal ça pour les plugs là. Ah oui, puis aussi, si vous voulez voir mon spectacle Jer Alain plus pour longtemps, il y a une nouvelle date qui s'est rajoutée, qui est le 11 octobre. C'était supposé être le 13 en Abitibi. Finalement, il y a eu un fuck-up dans les dates. Mais ça va être... C'est officiellement, là, ça, c'est officiel. Le 11 octobre, je m'en vais à Rouen, à la scène. Évolution. Ça va être crissement nice. Juste vous dire d'avance, il y a 150 billets. C'est des places limitées. Fait que grouillez-vous. La dernière fois que j'ai été en Abitibi, c'est les jouets à Val-d'Or, à Rouen. Puis à Amos, puis les trois places se sont sold out assez crissement rapidement. Fait que si vous voulez, c'est là que ça se passe. Ou sinon, quoi d'autre j'avais? Ah oui, c'est ça. Le 20, j'étais à Rivière-du-Loup. Le 20 septembre, j'étais à Rivière-du-Loup. Le 21 à Rimouski. Le 26 à Jonquière. Le 27 à Labbé. Et le 28 à Alma, OK? Et le 22, on termine ça. Nul autre qu'au Club Soda, OK? Il y a 200 billets, il y a 260 billets qui est déjà vendu, OK? Fait que la moitié des billets est déjà partie, OK? Puis il reste environ 2 mois à ce show-là avant qu'il se passe, mais 2-3 mois. Fait que tant qu'à moi, ça va se vendre assez rapidement. Si vous hésitez encore à venir, c'est le moment, venez acheter vos billets. Ben, ça va être crissement nice. Il va y avoir plein d'humoristes en première partie. Je veux que ça soit un événement, OK? Ça va être vraiment de quoi que je veux que le monde se souvienne. Tous ceux qui trippent sur qu'est-ce que je fais vont faire « Tabarnak, je me souviens, moi, en 2019, parce que j'étais là avec mes potes, je me souviens plus de rien parce que j'étais trop défoncé, me suis réveillé dans la rue, là. Mais Christ, t'es malade, parce que je me souviens des images, t'es fou. » Fait que, bref, c'est ça, venez me voir. Pis m'avoir un plus beau chandail que mon Free Dog Raider. Okay. Qui qu'on reçoit cette semaine, c'est nul autre que Eddie King. Super content, man. J'ai beaucoup aimé la conversation que j'ai eue avec lui. Très cool, très très relax comme gars, man. J'ai bien aimé ça, man. C'était cool de l'avoir sur le podcast. On a parlé un peu de qu'est-ce qui s'est passé avec la controverse de Juste pour rire. On a parlé, hey, je savais même pas, il m'a parlé de la fois qu'à un moment donné, il a passé proche de lâcher l'humour, d'arrêter d'en faire. On nous a parlé de l'après de son premier one-man show. On a parlé aussi de comment il a commencé. On a parlé de la représentation de la communauté noire à la télévision puis dans les médias. Bref, ça a été vraiment intéressant. J'ai eu beaucoup de fun avec lui. Fait que ça va être ça pour cette semaine. Gros merci tout le monde d'écouter le What's Up Podcast. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Puis c'est ça. Vous voulez me voir en show? jerralin.com, puis si vous voulez devenir membre Patreon, c'est patreon.com/whatsuppodcast. Merci tout le monde, écrivez-moi si vous voulez, puis je vous adore. Peace out! Yeah! Ouais, ça, tu me posais bien des questions sur mes logiciels, puis tout ça, c'est parce que t'aimerais ça t'en partir un, ou...
J'y ai pensé, mais je serais le 48 millième. Ouais. Ouais, c'est partir un podcast, mais ouais, je suis un peu curieux, mais il faut juste que je trouve c'est quoi l'idée et dans quelle niche j'ai envie de...
Le concept, genre.
Ouais. Mais j'ai comme l'impression que je m'éloignerais de l'humour.
Ouais.
Ouais.
Ben, c'est ça, là, comme tu dis, il y en a ben des podcasts, surtout d'humoristes.
J'avais envie de me partir un podcast sur les DJ. Vu que
ouais,
je DJ aussi.
Ça,
ouais.
Fait,
ouais, ça m'intéressait, genre, puis d'un peu parcourir le monde et de tomber sur des DJ, puis mm-hmm. voilà.
Tu le ferais-tu en anglais ou en français ou...
Je pense que je ferai les deux.
Ok, les deux.
Ouais, je pense que je ferai les deux. Je crois, je sais pas. Regarde, c'est encore une idée, donc il y a rien de prévu encore, tu vois. Donc, mais c'est à ça que j'ai pensé. Mais c'est que je viens juste de modifier mon ordinateur.
Ouais.
Et là, parce que là, j'étais un peu limité avec l'ordinateur que j'avais. Mm-hmm. Donc là, j'ai modifié mon ordinateur avec un processeur plus puissant. Et ça m'a permis d'avoir un logiciel de montage, mais pour le son, pour la musique et tout, tu vois. Donc pour faire mes montages et tout. Donc là, j'étais comme, peut-être un podcast, ça pourrait être cool et tout. Puis voilà, puis ça.
T'en fais-tu chez vous, tout de ça, du montage, puis...
Regarde, je viens de recommencer, justement, parce que j'avais ce truc d'ordinateur, mais j'en fais un peu, mais là, je viens juste de prendre un nouveau logiciel dont on m'a parlé, on m'a dit que, bon, c'est un peu... plus user-friendly que les Pro Tools et les Sonar et les Cubase et tout ça, parce que tous ces trucs là moi ça me faisait mal à la tête, tu vois. Donc, et là je l'ai pris il y a 2-3 jours et je suis en train de mess around avec, tu vois.
T'es en train de t'amuser avec
tu vois, j'ai recommencé à faire de la musique avec tu sais, j'ai voulu recommencer à composer à l'ancienne, un peu à la base du hip-hop avec...
Comme quand t'as commencé, dans le fond?
Ouais, moi, j'ai commencé avec un logiciel qui a changé un peu le monde du producing pour des producers hip-hop pour beaucoup de gens, ou même d'autres. C'est un logiciel qui s'appelait Fruity Loop, maintenant ça s'appelle FL Studio. C'est genre, on parle de 2002-2003, j'avais commencé là-dessus, mais moi, ça me permettait de mettre en place certaines idées. Mais après, j'avais toujours en tête, un jour, je vais m'acheter une MPC.
Ouais.
Tu comprends, je vais m'acheter une MPC. Là. À cette époque-là, la MPC Excel, 2000 Excel, c'était l'arme de guerre de plein tu sais, des DJ Premier, des Pete Rock, des gens comme ça, tu vois. Quand j'ai dit, bon, vas-y, j'ai envie de me remettre un peu dans la musique. Parce que je voulais pas juste DJ, j'avais envie de produire un peu mes propres beats, mes propres remix à moi et tout.
Ouais.
Mais j'avais envie de la manière de faire de la MPC qui est une autre manière de faire complètement.
Fait que là, tu voulais revenir plus à l'ancienne qui est du hip-hop, dans le fond. Là, tu sais.
C'est pas que je voulais produire exactement du hip-hop, c'est juste la manière de faire de la MPC. C'est à la base la façon de produire. Okay, tu sais, c'est comme une espèce de... Vas-y, c'est comme une boîte. À l'époque, c'était une boîte avec un tout petit écran, avec une roulette, et t'avais 16 pads.
Ouais.
Et il fallait que t'aies des disquettes.
OK.
Donc, tu prenais ton sample... Tu branchais, mettons, ta table tournante et t'avais comme un disque, je sais pas moi, James Brown, et tu prenais un code, un 4, un 8 mesures, et tu le coupais avec le petit écran, genre, mon frère, c'était un écran,
Ça a l'air compliqué, mec.
C'est ça, mais même les Vista 350, ils avaient un meilleur écran, tu comprends? Mais c'est un peu tout, et tu prenais il fallait que tu mettes ton sample sur ta disquette. Et que après ça, tu jouais avec et tout. Mm-hmm. Aujourd'hui c'est le même principe, mais assisté avec l'ordi. Mais il y a aussi la MPC que moi j'ai. En plus, je l'ai dans la voiture, j'aurais pu te la montrer. Je te jure, j'aurais pu te la montrer. Et en fait,
Mais ça, c'est des quelles années ça? Parce que tu dis avec des disquettes.
La MPC 2000 Excel, ça c'est genre peut-être début des années 2000, même fin 90.
Ouais,
tu vois,
c'est ça.
Ouais, maintenant j'ai
les
pas besoin d'une disquette.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu
parler. Ouais. Alors là, c'est celle que j'ai. T'inquiète, il y a Wi-Fi.
C'est comme l'update version aujourd'hui.
Ouais, ouais, d'aujourd'hui, ouais, okay, effectivement. Okay, tu comprends? Okay. C'est juste la logique de composer. Reste la même. C'est-à-dire que quand Akai a sorti ce truc-là, en fait, c'est toute la base du sampling. Parce que tu sais, le hip-hop, la base, c'est le sampling. Tu comprends? Donc, c'est de prendre un vieux disque et de rentrer la partie que tu veux dans la machine et qu'avec les pads, tous les morceaux, tu les remets dans l'ordre et puis tu rajoutes un kick et un snare par-dessus. Et en fait, c'est un séquenceur. Tu comprends?
Ouais.
Et t'as plusieurs séquences et sur chaque séquence, t'as plusieurs tracks. Et,
t'as-tu recommencé ça parce que justement, l'appel de la musique est revenu te chercher?
Ouais, effectivement, j'avais besoin de me réconcilier avec la musique parce que avant de faire de l'humour, c'est ça que j'ai fait
que toute
ma vie, toute ma vie. Puis
même que tu te considères meilleur rapper que meilleur humoriste.
Je pense, Je pense, mais c'est parce que ça fait. Ben, je te dirais qu'aujourd'hui c'est ex aequo un peu.
Half and half.
Je pense que ça fait quand même 12-13 ans là qu'on est dans le game un peu, tu vois, donc ça va. Mais le pire c'est que ça m'intéresse plus ou moins de rapper en fait.
Mm-hmm.
C'est vraiment juste créer de la musique. Je sais pas où est-ce que je vais m'en aller avec ça.
Ouais.
Ah,
ben c'est cool ça, man. Je vais te faire une vraie intro, si tu m'achètes.
Ok, ben vas-y, y'a pas de soucis.
Fait que, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir Eddie King. Comment il va, mon gars?
Super, et toi?
Yes, ouais, ça va super bien.
Ouais.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Ouais, j'avoue, je me suis invité tout seul aussi. c'est quand tu m'invites à ton podcast.
Non, mais j'étais content parce que à chaque fois qu'on se croisait, c'était tout le temps, t'étais un peu occupé. Dans ta tête juste avant de monter un show, tu sais.
Ouais.
Puis là, c'était la première fois qu'on pouvait se croiser justement à l'édifice juste pour rire.
Ouais, on s'est croisés, là.
Puis j'ai resté surpris, t'avais l'air super content de me voir.
Bah oui. Alors, c'est vrai que quand je suis dans ma tête, j'ai un peu ce que j'appelle le resting bitch face. genre un peu bête, hein. J'ai l'air pas friendly.
Ouais.
J'avoue.
Ben même Preach aussi.
Ah!
À chaque fois qu'il me parle, je suis comme, t'es sûr que t'es mon ami?
Ah! Ah, ça, c'est Preach. Hein. T'imagines, Preach, je le connais depuis du temps où je faisais de la musique. Genre, Preach,
ouais,
je le connais depuis
vrai.
Début des années 2000.
Ouais.
Ouais.
C'est fou, ça, pareil. Même.
Ouais. Et puis lui aussi, il a commencé avec la musique. Ouais. Et puis, il a beaucoup évolué dans la danse, lui. C'est un putain de danseur, Preach. Non, mais vraiment, c'est un putain de danseur, en vrai. Ah ouais.
Chaque fois qu'on parle d'un homme qui danse, je pense tout le temps à Magic Mike. Là. Moi, c'est jamais genre des dudes qui dansent du hip-hop ou des affaires de même. Dans ma tête, c'est des danseurs.
Non. Alors, je sais qu'il bon, était. Moi, je l'ai connu dans le hip-hop, mais c'est surtout, je l'ai vu évoluer beaucoup avec le house.
Ouais.
Preach. Ouais, avec
le
house, il dansait du house.
Ok.
Puis c'est tout un monde, tout un univers, toute une culture. Puis je me rappelle la personne qui m'avait, et je pense qu'il lui aussi l'a comme un peu initié à tout ça, je crois, et puis après peut-être il dira différemment.
Ouais.
C'est un de nos gars, un de nos grands du quartier à Côte des Neiges, qui s'appelle Dazzle. Et Dazzle, c'était un breakdancer d'un crew mythique. À Montréal qui s'appelle Flow Rock. Et à un moment donné, Dazzle, il est parti à New York. Je sais pas, il est parti un an ou deux. Il est revenu et genre, il dansait du house, mais c'était chaud. On n'avait jamais vu ça.
Ouais.
Genre, ouais. Puis c'est par ces moments-là que j'ai vu après Preach commencer à danser, évoluer. Puis.
Il y a une sorte de musique qui s'appelle du house qui est vraiment plus genre un beat techno.
C'est ça.
Ah, okay.
C'est ça.
Pas l'affaire électronique. Là,
Non, pas la tectonique.
Tectonique, ouais.
Respecte mon pote, toi aussi.
Malgré que ça serait quand même drôle de voir Preach qui se donne au bout là-dedans. Ça fait que là, toi, en ce moment, t'es en rodage avec ton show Mogenzi, c'est ça?
Ouais.
J'ai-tu bien dit?
Ouais, Mokonzi, ouais.
Mokonzi,
okay. Ouais. C'est, le rodage.
Ouais, puis c'est quoi ça veut dire encore?
Ça veut dire le roi ou ça pouvait dire aussi chef
okay.
ou patron.
Ok. Ouais. Puis comment qu'il va le rodage?
Ça va. Écoute, là, en ce moment, je t'avoue que le rodage, il est parfait, le show, il est là, il est prêt.
Ouais, ça, il doit être quasiment terminé.
Maintenant, moi, mon souci, c'est plus maintenant, c'est savoir comment j'ai envie de le sortir. Parce que j'ai pas trop envie de le faire de façon conventionnelle et tout. Puis c'est un peu là-dessus que je suis un peu dans les discussions. Donc,
plus aller dans les petites salles, tu veux dire?
pas juste aller dans les petites salles, mais ouais, dans les petites salles et dans les salles que qui m'intéressent, tu vois, genre, mm-hmm. parce que le circuit conventionnel, je trouve que c'est pas un circuit qui me convient.
Ouais. Puis c'est plus vraiment tant la formule, tu sais, même Mike qui est vraiment un grand nom, qui est, même lui, il fait une petite tournée, puis ça va être ça, tu sais.
Ben, c'est ça, en fait, tu comprends, parce qu'après, tu sais, quand tu lances dans des grandes tournées, c'est beaucoup d'argent qui est versé, pas tant que ça qui te revient, tu sais, puis, tu sais, moi, je suis conscient aussi un peu de ce que je suis, de ce que je représente, et voilà, tu vois, genre... du moins, je connais mon niveau de notoriété aussi, tu comprends. Est-ce que genre je vais remplir je sais pas moi, est-ce que je vais remplir une salle de 1000 personnes à Rimouski? Non. Tu vois ce que je veux dire, j'aimerais bien, mais faut se dire les choses en face, tu comprends. Donc alors investir dans une tournée, investir dans, tu vois, je veux que ça soit fait bien, et puis que à la fin, mon frère, j'ai des enfants, faut que j'ai de l'argent dans mes poches aussi, tu vois. Tu sais, des fois, tu sais quand c'est rendu que tu fais plus d'argent quand t'es pas en tournée que quand t'es en tournée.
C'est ça. Hein.
C'est en fait le modèle conventionnel qu'on avait, il se prête beaucoup à ça. C'est-à-dire que si ça fonctionne, là tu fais du cash de fou.
Parce que tu fais plein de shows, tu te remplis.
Exactement. T'sais. Mais si t'es comme dans un espèce d'entre-deux,
c'est pas tant payant.
Ouais, c'est pas super payant, tu vois. Donc alors t'es mieux de c'est pour ça que je veux faire ça d'une manière
Puis y a-tu maintenant du monde que tu regardes, comment tu fais, ok, ça pourrait être plus qu'est-ce que j'aimerais avoir, ou c'est pas mal tous les humoristes, même Guillaume Wagner, il s'autoproduit, Mike s'autoproduit,
c'est à tout ça que je pense, écoute, en ce moment, comme je te dis, je suis vraiment dans une phase de réflexion. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Tu sais, je veux aussi vraiment beaucoup plus pousser à l'extérieur du Québec, tu vois, l'extérieur du pays, parce que...
Ah ouais? T'aimerais ça, quoi, jouer en France ou au States?
Regarde, je joue en anglais, je joue en français, je peux m'adapter un peu partout dans le monde. J'ai des crédits TV dans le Canada anglais, j'ai avec Just for Laugh, j'ai fait le network de Kevin Hart aussi il y a 2-3 ans.
C'est nice encore.
Merci.
Comment t'as eu cette gig là, c'est cool. Est-ce que t'as pu côtoyer Kevin Hart?
Ouais, moi, Kevin Hart, je l'ai rencontré souvent. Après, à chaque fois, il se rappelle pas de moi, mais je l'ai rencontré souvent.
Ah ouais?
Ouais. Je l'ai rencontré... première fois que je l'ai rencontré, c'était peut-être en 2007, je crois. Après ça, je l'avais rencontré en 2009. Ça, c'était à... Il y avait Russell Peters qui faisait un after party, puis j'étais là. Puis on s'était croisés là. Après ça, en 2012... Et là, en 2016, quand on a tourné ce truc-là.
Ouais. Puis comment que s'est passé votre... Vous avez-tu une connexion ou...
C'est toujours court.
Salut, ouais, c'est
ça. Ouais. Quoi qu'on avait... Non, on avait parlé un peu plus longuement. Je pense peut-être une journée avant le tournage de ce truc-là. On avait parlé un petit peu plus longuement. C'était moi, Rachid et Bruce Hills.
Okay.
Et Bruce Hills nous avait présenté. Donc là, on a pu un peu s'asseoir avec lui, discuter, parler, tout ça.
Ouais.
Après ça, quand on avait fait l'enregistrement, il était là. Et par la suite, je suis pote avec un des gars avec qui il a commencé à Philadelphie.
Okay.
Fait que, à un moment donné, après une conférence que lui donnait, j'étais avec ma belle-fille, puis mon pote qui s'appelle Touré, il a dit « Ah, vas-y, viens » et tout. On a pris une photo avec lui et tout ça.
OK. Puis comment il est dans la vie? Il est-tu bien cool ou
il est très cool, très relax, franchement. Je te dirais que les premières années où je l'avais rencontré, il y avait un moment où je le trouvais un peu plus dans sa tête.
Ouais.
Parce que je l'avais croisé... dans un truc de Russell Peters, mais après, je l'avais vu aussi au Comedy Works.
Mm-hmm.
Mais il avait l'air un peu dans sa tête, mais quand tu regardes chronologiquement, je pense que c'était vers l'époque de son divorce et tout. Je pense que c'est ça. Mais après, je le connais pas comme ça, donc
c'est ça. Hein?
Mais c'est juste un calcul que moi, je pense que je fais dans
ma
tête.
En même temps, tu sais, c'est tellement un niveau de fame élevé là, qu'il y a là.
Ouais.
Ça doit être fou à avoir à gérer ça.
Là, mais à cette époque-là, c'était pas comme maintenant, tu vois. Okay. Même que là, en 2007, écoute, je t'explique, en 2007, quand je l'avais croisé, c'est parce que c'était moi et deux autres de mes potes. Es-tu Jean-Pascal? Je sais plus. Je pense qu'il était là. Mais on allait à un after party de Gad Elmaleh.
OK.
OK. Et c'est Gad Elmaleh et Jamel. Mais Jamel, je pense que c'est pas pour toi. En tout cas, c'était Gad Elmaleh. Puis c'était il avait une section privée dans le fond du club.
Puis c'était où ça?
Ça s'appelait le Time Café.
OK.
C'était sur Saint-Laurent à l'époque.
OK, fait c'était au Québec.
Ici. Et là, genre... et puis, en allant... Mais le club, en soi, était vide. C'était juste la section VIP qui était pleine.
Ouais.
Et lui était là tout seul, avec deux meufs. Et il était en train de danser, tout ça. Je dis, hey, aren't you the dude from Soul Plane? He said, yeah, that's me. Oh, cool, man. Yeah, I like what you do. Puis, on a passé notre chemin.
Ouais.
So, il était pas connu à ce moment-là.
Ouais. Ça. OK, c'était pas encore.
Non, c'est 2007, c'est juste.
OK. Ouais. C'est quand que ça a pogné ses affaires, à lui?
Je pense que ça a commencé vraiment avec quand il a sorti son premier special, Grown Little Man. Ça devait être, on parle de peut-être 2009, 2010, peut-être. Okay, 2010, peut-être, ouais.
OK.
Ouais. Et après ça, ça a commencé à évoluer.
Mais lui, c'est
tellement un beaucoup de choses en même temps.
Ouais. Hein.
C'est-à-dire que t'as ça, les films, tu sais quoi, pas tant que ça en fait.
Ah ouais.
Les films, c'est venu après.
OK.
D'abord, qu'est-ce qui a fait que ça a vraiment pogné?
Ouais.
C'est qu'il y a beaucoup de choses de lui qui sont devenues virales, entre autres sa face pour des mimes.
Ah ouais?
Ouais.
Tu penses que...
Ouais. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mimes qui sont...
Ses
réactions, ses visages.
Ah ouais.
Beaucoup d'extraits de ses spectacles. Ouais, tu vois, des trucs comme ça. Et après, c'est comme si genre... Tout s'est emboîté et après ça, les films sont venus. Puis je pense que le premier film qui a vraiment percuté, parce qu'il avait fait d'autres films avant. Il avait fait un Scary Movie. Il avait un film avec Matthew McConaughey aussi.
C'est vrai. Hein?
Ouais, non, il avait fait quelques trucs avant, tu vois. Il avait Soul Plane.
Ouais.
En fait, Soul Plane, c'était c'est bizarre comme film.
Ah ouais,
c'était
avec Snoop Dogg qui fait Dimanche.
C'était pas super bon.
Ouais.
On peut dire que c'était un flop, mais plus ou moins parce que tout le monde l'a vu.
Ouais.
Tout le monde l'a vu.
Puis ça reste un classique aussi.
Genre, c'est bizarre à dire, mais tout le monde l'a vu. Tu comprends?
C'est vrai.
Ouais, puis t'es même dans le... Tu sais, la chanson Lean Back de Fat Joe, il était dans le vidéoclip aussi.
Ouais.
Il
était pas mal de partout, mais pas encore...
Voilà. Puis quand Grown Little Man est sorti, puis après ça, il y a eu Seriously Funny.
Ouais.
Ça a commencé... Un amalgame de trucs, puis ça a grossi. Puis c'est quand il a sorti le film, le premier gros film qu'il a sorti, où est-ce que ça a vraiment comme, oh, OK. Bah, gros, ça dépend pour qui, mais c'était le truc avec le ce qui sort, c'était tiré du film de Steve Harvey, du livre de Steve Harvey, c'était Think Like a Man.
Ah ouais, je l'ai acheté ce film-là.
Ah, Think Like a Man?
Ah, j'adore ce
film. Ouais, fait que Think Like a Man, c'était...
La toune à John Legend, j'ai adoré cette toune-là.
C'était laquelle encore?
Ah, je sais pas, c'est... Tonight is tonight, un enfant de mère.
Rechante encore, s'il te plaît. Comment, allez.
Je laisse pas dans ça. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu. Mais en tout cas, c'était cœur.
Fait que c'est ça.
OK, cool. Puis, ça, j'ai remarqué ça, t'as joué aussi à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Ouais.
Chris, ça, c'est nice aussi.
Ouais, c'est cool. J'ai fait un taping là-bas, mais j'ai jamais vu le résultat final.
Ah, OK. C'était-tu juste un show dans un comedy club ou...
Non, c'était un festival.
OK, c'est
un festival.
C'est ça.
L'année d'avant, j'avais fait comedy club, mais à Cape Town, pas à Johannesburg.
Mm-hmm.
Ouais.
OK. Puis comment t'as trouvé ça? C'était
bien. Moi,
c'était
cool.
Mais y a-tu fallu que tu t'adaptes, tu sais, jouer en Afrique du Sud?
Ben, oui et non. C'est-à-dire que tu sais, j'essaie quand même d'aller avec ce qui est la partie plus universelle de mon matériel, tu comprends?
Ouais, ouais,
bon,
ouais.
J'ai pas commencé
les observations.
Voilà, ouais, j'ai pas commencé à te parler de la CAQ et puis de la loi 101.
Philippe Couillard!
Ouais, si, t'as l'air nice. Ouais. Le go, là, si, embrasse sa soeur sur la bouche. Quoi
ça, tabarnak?
Ouais, tu vois. Donc, je parle un peu plus, tu vois, je veux dire, je parle de mes enfants, de mon machin. J'ai mon matériel qui est plus universel, tu vois.
Puis, tu sais, toi, même si pour moi, t'as un accent français, là-bas, ouais. Y'a-tu fallu que tu t'adaptes ou au contraire, c'est...
Où ça, en Afrique du Sud?
Ouais.
Non, mais moi, j'ai un accent partout. Dans n'importe quelle langue que je parle, j'ai un accent. Donc,
ah ouais. Ouais.
Mais c'était en anglais, là-bas, donc...
OK, c'était en anglais.
Ah non, non, ouais, il parle pas français, là-bas.
Pour vrai?
En Afrique du Sud.
J'étais sûr qu'il parlait français, là-bas.
Non.
C'est où qui parle français en Afrique d'abord?
Beaucoup d'endroits.
Ouais. Okay.
Come on, Jérémy, come on!
Non, mais c'est parce que j'ai lu.
Il y a le Sénégal, il y a le Mali, il y a le Congo, il y a l'autre Congo, il y a le Cameroun.
J'aime beaucoup
Nelson. Côte d'Ivoire. Come on, bro!
J'aime beaucoup Nelson Mandela. Ouais. Puis, tu sais, quand il allait tout le temps à Johannesburg, j'étais sûr qu'il parlait français là-bas.
Ah non, mais t'as déjà vu faire un speech en français, Nelson Mandela?
Non. Mais j'écoute tous mes films traduits.
C'est ça. Les lèvres ne suivent pas, mais ils parlent français.
C'est un peu marrant aussi.
Belle. Bah écoute, en même temps, voilà, te rappelles le gars des langages des signes là aussi? Mm-hmm. Son truc.
Ouais.
Te rappelles de cette histoire là?
Non.
À ses funérailles. Il y avait un gars qui pendant les speeches, faisait le langage des signes pour les sourds et malentendants.
Puis il n'y avait même pas rapport.
Ouais, il racontait n'importe quoi. Il racontait n'importe
quoi. Ah oui, je ne m'en souvenais plus de ça, Mais c'est ça, mais fait que c'est ça, tu jouais en anglais là-bas.
Ouais.
Puis y a-tu de quoi que tu avais remarqué, tu sais, de jouer en Afrique du Sud?
Moi, ce que j'aime bien avec les Sud-Africains, c'est qu'ils ont une perspective du monde qui est complètement différente.
Surtout
par rapport au reste de la culture noire un peu à travers le monde. Il y a quelque chose de très différent avec eux.
Mm-hmm.
Puis, ils sont beaucoup plus proches des Québécois qu'on le pense.
Ah ouais?
Ouais.
Pourquoi tu dis ça?
Parce que...
Feeling ou...
Regarde. Tu sais, on va pas se le cacher. Au Québec, on a un problème avec la xénophobie. Tu comprends?
Ouais.
En Afrique du Sud aussi.
Mm-hmm.
Ils ont un problème aussi avec la xénophobie, ouais, qui est beaucoup plus virulent qu'ici, par contre. Ouais. C'est très violent même des fois. Mais les raisons sont les mêmes un peu. C'est-à-dire, les Sud-Africains, c'est un peuple qui est 91, c'était hier, là. 91 qui a été libéré, l'apartheid est fini en 94, je crois.
Un truc comme ça, genre, tu vois.
J'espère que je me fourre pas dans les dates, mais c'est à peu près ça. Mais c'était hier. Je pense que tu as quel âge?
J'ai 28.
28, t'es né en.
91.
Donc, voilà. Voilà, tu vois, c'est pas si vieux, tu vois. Mmh. Moi, tous les mecs qui ont mon âge et qui sont sud-africains, ont connu l'apartheid.
Mm-hmm.
Tu te rends compte? Alors, quand t'as un peuple qui vient juste d'avoir une libération,
ouais,
eh ben, n'importe quel corps étranger qui va arriver, tu vas être comme, oh shit. Genre, non, je viens juste d'avoir cette indépendance-là, je viens juste d'avoir cette libération-là, je viens juste de reprendre le contrôle.
Ouais.
Alors, dès que t'as des étrangers qui arrivent, t'as comme peur. Et ça, c'est vraiment foncièrement de la xénophobie. Puis au Québec, on a à peu près la même chose. Okay. Parce que après la Révolution tranquille et tout, tu vois, voilà, le Québec, t'sais, s'est relevé.
Tu penses que ceux qui sont xénophobes en Afrique du Sud, c'est les Noirs?
Ouais, je pense que tu parlais des blancs.
Là.
Non, les blancs.
Les
blancs, eux, c'était du racisme.
bien établi.
C'était comme un système ce que je veux dire, bien organisé. Voilà, c'est pas pareil.
Ouais,
tu comprends?
Okay, la xénophobie. Ça, tu dis, okay.
Exact. Fait que les noirs sud-africains, il y en a beaucoup qui. Il y a beaucoup de xénophobie dans les noirs sud-africains.
Mm-hmm.
Et c'est de la xénophobie qui vient par rapport aux autres pays d'Afrique. Donc, dès que tu viens d'un autre pays d'Afrique et que tu t'installes en Afrique du Sud, c'est
Il faut que tu t'adaptes à leur tradition. Parce que sinon, ils ont peur de se faire voler leur liberté. Ou...
Un peu, genre, tu vois, c'est un peu ça le souci, tu vois. Donc,
fait que toi, quand t'es arrivé.
Bah non, mais moi je le vivais pas comme ça, tu comprends ce que je veux dire. C'est juste que c'est quelque chose que quand tu passes du temps avec les gens là-bas et que tu comprends un peu certaines réflexions qu'ils ont, et surtout quand moi je vois les gens des diasporas d'autres pays, par exemple quand je regarde la diaspora congolaise qui vit en Afrique du Sud, eh ben ils vont me le dire, ils vont dire ben tu sais ils sont très très soudés parce qu'ils savent que ben ils sont pas appréciés de tout le monde. Tu vois, c'est pas tous les Sud-Africains, ils sont très accueillants, les Sud-Africains. En fait, c'est pour ça que je dis, ils sont comme les Québécois, très accueillants, très, très, très accueillants. Très accueillants, très chaleureux, tu comprends? Mais ils ont cette frayeur de perdre ce qu'ils viennent juste d'acquérir. Ouais. Et les Québécois, c'est un peu la même chose, tu comprends? Et c'est pour ça que la seule différence avec le Québec, c'est que notre classe politique entretient ça, genre. Ils entretiennent ce climat genre de la CAQ c'est ça, le Parti québécois c'était ça aussi. Mon frère, ils disent des trucs des fois, t'es comme c'est n'importe quoi.
C'est ça t'as ressenti, toi, avec surtout qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la loi sur la laïcité.
Tu vois que c'était n'importe quoi, genre tu dis ah ouais bah voilà la laïcité, ok cool, alors le crucifix machin, là ça commençait à bégayer, finalement ils ont dit ah bon voilà on a l'air un peu con, on va l'enlever.
Ils l'ont enlevé finalement.
Je crois qu'ils ont dit que
c'était plus patrimoine. Que moi, à la limite, j'en ai rien à contre-chier de ça. Mais toi, t'es pas religieux. T'es-tu religieux?
Non, pas plus que ça. Non.
Ouais, c'est ça.
Moi, je crois en Dieu et tout. Voilà, mais
fait que toi, la loi sur la laïcité, ça parlait pas vraiment.
En fait, moi, ça me parle parce que tu vois que c'est.
Dirigé contre les femmes voilées.
En fait, c'est surtout une question que. Comment je peux t'expliquer ça? C'est-à-dire que c'est des débats qui sont faux. Genre, c'est des faux débats. Mais cette crainte de perdre une certaine contrôle, une certaine liberté, parce que veux pas. Avant la Révolution tranquille, je disais loi 101 depuis tout à l'heure. Avant la Révolution tranquille, ok? Ouais. Le Québec, tu sais, ceux qui dominaient, c'était beaucoup l'Église et les Anglais, le Canada anglais, tu comprends ce que je veux dire? Donc, le peuple québécois francophone avait du mal. Donc, il a dû avoir un vrai travail de créer cette identité québécoise et.
De sortir l'Église.
Voilà, de sortir l'Église. Tu vois, il y a tout ça qui a été fait comme travail, tu vois. Une fois que ça a été fait, maintenant que, genre, voilà, tu sais, genre, le français québécois blanc francophone, tu vois, il a le contrôle maintenant. Ils ont plus le contrôle que, voilà, tu vois, genre, le Québec, ils ont le contrôle, tu comprends? Maintenant, c'est cette crainte de perdre le contrôle. Donc là, maintenant, la classe politique, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont accusé sur les trucs du voile, les trucs. C'est comme, mettons, quand tu regardes, par exemple, l'histoire de la charte. Okay. Tu sais, il disait, il y avait des trucs, il disait, vous n'avez pas le droit d'appliquer la charia, vous n'avez pas le droit de lapider, machin, mais que t'es la charte ou pas, et t'as pas le droit de le faire, que tu parles. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas le droit de le faire, c'est parce que tu m'as envoyé un petit papier dans ma boîte aux lettres, ça va faire une différence. Tu comprends ce que je veux dire? T'as pas le droit de faire ces choses-là.
Et tu vas faire, oh!
Ouais, voilà, merde, le petit papier dans la boîte aux lettres, il a dit, on n'a pas le droit. Tu avais
trouvé une belle roche.
Ouais, voilà, tu vois. C'est ça que la classe politique québécoise, ils font. Ils arrêtent pas de dire des comme ça, et la CAQ, c'est la même chose, tu vois.
Ils reprennent ce discours-là.
Ils prennent ce truc-là. Même que je trouvais que des fois, Legault, c'est un peu une girouette. Legault, c'est... He's a businessman. Ouais. C'est ce que je ressens de lui. He's a businessman. So, qu'est-ce qui fait son affaire et qui va arriver à son objectif qu'il veut? Il va le faire. Fait que, avant, j'étais souverainiste, maintenant, je ne le suis plus parce que. C'est pas pour le moment. Mais dès qu'il y aura une vague souverainiste qui va revenir, il va redevenir souverainiste, t'inquiète pas. Et si à un moment donné, il va dire que finalement, le voile, ça fait gagner des votes ou ça fait ramener de l'argent au Québec, finalement. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. So, c'est ça un peu qui est dommage avec la classe politique. Et c'est pas juste. Même de l'autre côté, au niveau libéral aussi, tu vois, genre, quand nous, par exemple, les gens des minorités, on va voter libéral, c'est chiant, en fait, tu comprends? Mais eux, ils jouent avec ça, genre, sur nous aussi, parce que, de l'autre côté, ils jouent avec nos insécurités. En fait, c'est que ça, la classe politique au Québec. Juste des gens qui jouent avec nos insécurités et tout ça, tu vois?
Ouais.
Et ça, c'est ça, la différence avec l'Afrique du Sud, où est-ce que je connais pas beaucoup, beaucoup la politique là-bas, mais au moins, je sentais pas ça quand ça vient au problème de xénophobie.
Ok.
Justement. Par contre, eux, ils ont d'autres problèmes au niveau de, des blancs sud-africains
ouais.
et de la majorité. C'est-à-dire que quand, quand les colons blancs sud-africains étaient là, ben, tu sais, ils ont fait des repossessions de terres, tu vois.
Ouais.
Ils ont pris des terres qui leur appartenaient pas.
C'est ça.
Et maintenant, les, la population, maintenant que voilà, tu sais, genre.
Ils ont pris le contrôle.
Ben, ils reveulent les terres.
Ouais.
Tu comprends? Puis là, c'est là que.
C'est là que la chicane a pas.
Ouais, ouais, le gros débat, tu vois. Donc, ouais. Moi, j'ai mon pote Loïso qui était là pour le festival. Il est même venu l'année dernière à mon spectacle parce que je faisais des fins de soirée à la 5e salle de la Place des Arts.
Ouais.
Puis j'ai invité des humoristes. Tous mes potes humoristes un peu partout dans le monde, je les invitais. Donc lui, il est venu. Parce qu'il était ici pour faire son Netflix special. Puis je me rappelle, à un moment donné, quand on était là-bas, il m'expliquait que genre, c'est arrivé que quand il était jeune, son grand-père s'est fait reprendre sa terre et était forcé de travailler pour les gens qui ont pris la terre en question.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Tu comprends?
Sous forme d'esclavage?
Pas esclavage, mais dans sous forme d'apartheid, tu vois. Ouais, comme un peu le Jim Crow qu'il y avait aux États-Unis et tout ça, tu vois.
Colin, man. Moi, je trouve ça intéressant en tête, les histoires. Là.
Ouais.
Tu sais, que ce soit l'histoire du Québec ou des States ou de l'Afrique ou peu importe. Là. Je trouve ça calissement nice. Puis, t'es quand même beaucoup politisé. Puis, tu t'en fais pas dans dans ton stand-up.
Un peu. Je suis pas si.
Ah, un peu?
Un peu. Tu sais quoi? Est-ce que je suis politisé? En fait, tu sais quoi? Moi, quand je fais de l'humour, j'ai toujours. C'est toutes les conversations qu'on aura autour d'une table entre potes.
Ouais, c'est ça.
So, y a un peu de politique dedans.
Ouais.
Après, je suis pas, tu sais, j'en fais pas mon cheval de bataille.
Ouais,
je suis pas,
c'est ça. Ouais.
Je suis pas, je me dirais pas genre, ouais, je suis Black Guinantel. Tu comprends?
Ouais, ouais.
Mais il y a un côté de moi qui, effectivement, ben, qui est soucieux. Mais après, je vais pas aller en profondeur non plus, tu comprends?
Ouais, c'est ça. T'sais. Parce qu'en même temps, c'est ça, faut que tu. Ça, ou sinon, ça en devient ta couleur, là, tu sais.
Ouais, ouais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'ai mes opinions et j'ai pas peur d'en parler, mais c'est tout d'une manière de... Ouais, on est entre potes autour d'une table. Des fois, on n'a pas tous les mêmes opinions.
Ouais.
Et voilà, on discute, mais tu sais, dans les discussions, il y a aussi « Ah, alors comment vont les enfants? » Tu comprends?
Ouais, surtout que là, ça, tu viens d'avoir... t'es rendu avec deux filles, là.
Ouais, j'ai deux filles, ouais. Fait deux filles puis une belle fille, ouais.
Ouais, ça, tu dois en parler dans ton show.
Ouais, j'en parle souvent de mes enfants.
Si on commence avec plus comment t'as commencé en humour, parce que ça, t'étais beaucoup plus sur la scène du rap et de la musique.
Ouais,
qui t'a amené à animer, à m'emmener un spectacle de musique.
Ouais, exactement.
Un peu à la improvisation.
Exactement.
Puis là, c'est là de même que t'as eu la piqûre, puis tu t'es essayé pour l'école nationale, les auditions. T'as essayé deux fois.
Ouais, j'ai essayé deux fois.
Ça a pas pogné.
Non. Nope. Toi, t'as été, toi?
Non.
Non?
Ben moi, j'ai pas de secondaire. Fait que...
Ah, il faut un secondaire pour aller à l'école nationale?
Ouais.
Ah ouais?
Puis moi, j'en aurais pas. Fait que je m'en calisse. Puis, mais c'est ça, mais à partir de ce moment-là, c'est là que, mettons, j'ai perdu un peu la trace, tu sais. C'est qu'en 2007, t'as participé à un concours qui est de la relève.
Ouais, c'est un concours de la relève, ouais.
Ouais? Tu veux nous en parler? Là,
ouais, c'est un concours de la relève. Il y avait qui? Je pense que c'est Guillaume Wagner qui avait gagné, mais après ça, il m'avait nommé comme coup de cœur de ce concours-là.
Ah, c'est ça, ouais. Ça, t'avais été coup de cœur.
Ouais.
Puis, c'était quoi ton number? Comment t'avais écrit ça vu que...
Je me rappelle plus c'est quoi le number.
Ah ouais?
Je me rappelle plus.
Mais
comment j'ai commencé vraiment, c'est grâce à Junior Girardeau.
OK.
C'est la première personne que... Mais en fait, c'est grâce à plusieurs personnes.
Ouais. Okay?
Il y a Junior Girardeau qui est très important parce que c'est lui qui m'a donné ma première shot. Mais avant ça, ceux qui m'ont un peu guidé à savoir comment faire, vu que l'école m'a refusé, voilà, il fallait bien que je trouve un moyen de le faire. C'est des gars comme c'est Daniel Tirado, entre autres, qui m'avait beaucoup conseillé à l'époque.
Déjà
ouais.
À l'époque.
Ouais. Parce que moi, en fait, actually, avant, je ne savais même pas qu'il y avait tous ces spots en français, le Saint-Cyboire et tout. Quand je voulais faire du stand-up, j'allais dans les comedy clubs anglophone, puis c'est là que j'ai rencontré...
Ah, en anglais, ouais.
Ouais, Tirado, j'ai rencontré Sugar Sammy, j'ai rencontré, Iman, j'ai rencontré plein de gens comme... En fait, c'est tous les gens... tu vois, mettons genre... Tu sais, si, mettons, il y aurait comme une cohorte, je dirais que moi, ma cohorte des humoristes du côté anglophone, c'est les Daniel Tirado, Iman, Jess Solomon, Ali Hassan, Rodney Ramsey. C'est tous les gars avec qui... Tu sais, Deanne Smith...
Ouais.
Tous les gens avec qui j'ai évolué du côté anglophone. Et en fait, comme déjà, il n'y avait pas autant de soirées d'humour en français à Montréal que ça.
Ben ça, il y en avait deux, genre le Saint-Cibois, puis...
Le Mercredi Juste pour Rire.
Ouais, c'est ça.
Et que pour te faire booker, fallait attendre, ou fallait... Tu vois, je veux dire, c'était genre, ton prochain booking, c'est dans 3 mois, c'était long. Ça. Ben, dans ce temps-là, ben, j'allais faire les open mic au Comedy Works, puis de fil en aiguille, je commençais à être un régulier pendant les week-ends, machin, puis...
Tu pensais-tu... T'en allais plus vers le côté anglophone que francophone à ce moment-là?
Non, je voulais vraiment faire les deux.
OK.
Ouais, ben, quoique, tu sais, j'ai toujours voulu dire, j'ai toujours eu le rêve de vouloir m'installer genre à New York, un truc comme ça au bout d'un moment.
Ah ouais, puis devenir un régulier.
Ouais, voilà, tu vois, mais ouais, j'ai toujours voulu. Je vais voir où est-ce que le vent me mène.
OK. Puis, ouais, ça fait que t'as fait le concours, tu gagnes coup de cœur, puis c'est juste après tu t'en vas pour...
faire le
et en route?
Ouais, c'est pas longtemps après, je crois, que j'ai fait en route, ouais.
OK. Puis comment ça avait été, ça?
En route, ça a super bien été. J'étais jusqu'en finale, j'étais très content.
Ouais. T'as fait beaucoup parler de toi.
Ouais, vraiment beaucoup, ouais.
Me souviens t'avoir vu m'emmener une fois, parce que je savais pas c'était quoi le poste Vox.
Ouais.
Je savais même pas que ça existait. Moi, j'avais jamais écouté Québec. Je me souviens même plus c'est quoi le nom. Il y a un poste de Québec. Il y a un poste Québec quelque chose. Je me souviens même pas de ça. Puis il y avait Vox... J'avais jamais écouté ça. Puis à un moment donné, j'avais passé comme zappé. Puis t'étais là. T'étais en train de faire le number. Fait que c'est bien cool ça, mais c'est plat parce que j'étais un pogné vers la fin. Là,
OK.
Mais ouais, t'as fait beaucoup parler de toi.
Ouais, vraiment, ouais, franchement. Ouais, c'est ça m'a propulsé ce truc-là. C'est Et le pire, c'est que j'avais hésité à le faire avant.
Ah ouais, pourquoi?
Bah parce que à cette époque-là, on nous disait si tu veux faire un gala juste pour rire, bah c'est ça les auditions. Faut que tu le fasses en route.
OK.
Ce qui était plus ou moins vrai.
Ouais.
Ça dépendait de c'était qui ton manager ou si ton manager avait un certain pour. Mais c'est fou parce que, man, sur la première année, c'était que des heavyweights d'aujourd'hui.
Ouais.
Ouais. Demé, Wagner, Bellefeuille.
Dano,
ouais,
je sais pas si après,
Pierre Hébert, Gouache.
Ouais, c'est ça. Ben, tous ceux qui n'ont pas lâché.
Ouais, des heavyweights.
Ouais, c'est là que tu vois ceux qui sont là pour rester.
Non, mais écoute, c'est... Mais de toute façon, les concours comme ça, moi, ça m'a bien servi.
Mm-hmm.
Mais tu sais, c'est pas une finalité. Tu comprends ce que je veux dire?
Ben ouais, surtout pas en plus aujourd'hui.
Je pense que le moment où je l'ai fait, il me semble que dans mon round, je suis passé devant Bellefeuille. Tu vois ce que je veux dire? Regarde où est-ce qu'il est aujourd'hui, tu comprends?
C'est ça.
C'est pas une finalité.
Non, vraiment.
Ça. Mais moi, c'est sûr que c'est un super tremplin pour me faire connaître. Et puis...
là, le monde commençait-tu à te reconnaître dans la rue après ça?
Un peu, ouais, quand même. Hein?
Ouais?
Ouais.
Puis, tu faisais-tu des headlines ou tu te promenais un peu plus?
Je me promenais un peu plus, effectivement. Ça m'a permis. Je faisais plus de soirées et tout ça.
Ouais.
Je me promenais un petit peu plus et tout. Puis, ce qui a plus solidifié encore, c'est l'année d'après, quand j'ai fait le gala où est-ce que j'ai fait Tintin au Congo.
Ouais, c'est ça. Y en a-tu qui t'en parlent encore de ce number-là?
Ouais, bah écoute, beaucoup d'entre nous, on a un number phare ou un number, Wagner, c'est Check Me Pipes.
Ouais, qui devient viral, dans le fond. Ouais, c'est ça.
Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'était Tintin au Congo.
Ouais. Puis, ouais, mais c'est ça, mais comme ma tante, quand c'était arrivé tout ça, là, c'est. Comment que c'est arrivé, ça a déboulé vers autre chose, tu sais? Comment que ça a déboulé vers autre chose, tu sais, quand t'es arrivé puis t'as passé de finaliste de en route à faire le gala, tu sais, comment
De finaliste, Rachid m'a invité sur son gala.
Ok.
J'avais fait mon premier gala.
Il t'avait vu à TV ou il t'a entendu parler de toi?
Ou entendu parler de moi, puis en même temps, on a... j'avais signé avec le même manager que lui après en route. Après en route, j'avais signé avec le même manager que lui. Donc ça avait facilité pour que je puisse faire un gala.
Fait que juste pour rire, t'avais approché dans le fond?
Pardon?
C'est juste pour rire, t'avais approché?
Pas encore. m'avait pas encore approché. Mais
c'est juste, ok, fait que le manager à Rachid dans le temps.
Ouais, exactement. Même que moi. Ouais.
Ok, fait que. Et ça n'avait pas rapport avec Juste pour Rire.
Non, il était indépendant de Juste pour Rire. Ah, okay. Donc, on ne m'avait pas encore approché en production avec Juste pour Rire, tu vois. Donc, j'ai fait ce fameux gala-là. Ça s'est plus ou moins passé. C'était bien, mais voilà. Quand je le regarde aujourd'hui, je grince des dents, mon premier gala.
Ah, ouais.
Et l'année d'après, je me suis rattrapé en faisant encore le gala de Rachid. J'ai fait Tintin au Congo. Puis ça a vraiment...
Ah, oh, OK. Ouais. OK, fait que c'était pas la même.
Non, c'est pas la même.
Ouais, puis je regardais des vieux vidéos de toi qui étaient sur YouTube de stand-up. Tu sais, aujourd'hui, t'es tellement laid-back, puis tu prends ton temps, super confiant.
Ouais.
Mais quand tu regardes ces vidéos-là, t'es vraiment plus énergique.
Ben, tu sais quoi? C'est justement cette vidéo-là. C'est pour ça que je grince des dents, parce que même les gens me le disaient que même cette vidéo-là, c'était mon premier gala. Fait que je me suis laissé rentrer dans la tête par ce qu'on me disait. Donc,
au lieu de suivre ton instinct.
Ouais, et j'allais tellement rapidement, genre, Même, je me rappelle, même Junior, il me l'a dit, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il me dit, voyons donc. On t'a pas reconnu, genre.
Ouais.
Par rapport à tout ce que j'ai vu toi auparavant, quand tu regardes les vidéos d'En route, et ça, t'es comme. Ah, on dirait que c'était pas lui, genre.
Mm-hmm.
Tu vois, mais. Voilà.
Puis comment mais c'est-tu juste à cause de cette foi-là ou c'était stressé?
Je te dirais que les galas, c'est un animal que j'avais toujours eu du mal à maîtriser. Je pense que même jusqu'aujourd'hui, c'est bizarre à faire.
Ouais.
C'est cool, mais c'est bizarre à faire.
La journée d'un gala, toi, comment tu te sens? T'es-tu stressé ou...
C'est l'environnement qui me stresse.
Mm-hmm.
Stand-by 2h30, ok. Il va pas me déranger pour me dire ça. Ah, j'ai une montre. Fait que des fois, ce que je fais, c'est que je fais mon soundcheck et tout, machin, puis je me cache.
Ah ouais?
Ouais, je veux que comme ça, personne ne me parle. Et puis, je vais faire un tour et tout. Et puis,
ok.
Et genre, tu sais, l'heure avant mon passage, bah là je viens. Je mets dedans, mais je me trouve toujours un coin où est-ce que...
Ouais,
parce que les gens ils te rentrent dans la tête après, et moi ça m'énerve, tu vois. Puis je suis quelqu'un qui stresse jamais avant de monter sur scène, mais les galas c'est autre chose.
Ouais.
Et surtout quand ça a changé du Saint-Denis à Wilfried Pelletier, parce que Wilfried Pelletier c'est encore une salle qui est quand même difficile à maîtriser aussi.
Ah ouais? Mm-hmm. C'est quoi tu trouves la différence entre
Mais elle est grande, elle est haute, les rires ils te reviennent très lentement, faut que tu trouves ton rythme, c'est pas la même chose.
Ah ouais?
Ouais, c'est pas la même chose.
Ok, même avec tout ce que tu as fait, tu trouves encore que
c'est
assez adapté.
Ouais, c'est différent, genre, okay. Tu vois, c'est différent.
Ok. Puis, puis aussi tu as fait les premières parties... Rachid?
Ouais, j'ai fait les premières parties d'Arachide.
Sur toute sa tournée?
Non, sur la deuxième partie de la tournée.
Ah, okay.
Sur la deuxième moitié de la tournée, ouais.
OK. Puis ça, t'as aimé ça?
Écoute, ça m'a fait voir du pays, ça m'a fait connaître des grandes salles, ça m'a fait connaître des diffuseurs, ça m'a fait connaître du public.
Mm-hmm.
Ouais. Hein.
T'avais-tu tout le temps le même numéro que tu faisais? Ou,
non, je changeais.
OK, ouais, c'est ça, ouais. T'es en train de travailler ton...
Exactement.
Éventuellement ton one-man show.
Ouais.
OK. Puis, t'as-tu pu apprendre un peu de lui en checkant Rachid Ali ou...
Ouais. Au fait, apprendre, c'est un peu dur à dire parce mm-hmm. que j'ai appris de lui pas au niveau... pas nécessairement au niveau humoristique parce qu'on a tellement de styles tellement différents, mais mm-hmm. au niveau de... C'est quoi être dans ce niveau-là de notoriété?
La machine,
comment ça va vite, comment ça monte vite, comment ça te prend, comment ça vient te chercher à un niveau personnel aussi.
Ouais.
Et tu vois, c'est pour ça que Rachid, c'est mon frère, elle sera mon frère jusqu'à la fin de mes jours, tu vois, parce que on en a vécu des trucs au niveau personnel, on est passé à travers pas mal de choses, tu vois. Mm-hmm. Et je l'ai vu, j'étais là avec on était encore en tournée, il y avait souvent ses parents, j'étais là quand il y a eu le décès de sa maman, il y a eu beaucoup de choses qu'on a traversé comme ça, tu vois. Donc ça c'est beaucoup l'apprentissage de OK, you're on the road, you do your job.
Ouais.
Les gens sont là, mais ça ne veut pas dire que la vie ne continue pas. Tu vois mm-hmm. ce que je veux dire? Et que la vie n'est pas difficile. Et que, tu sais, on a un métier qui n'est pas nécessairement fait pour... C'est pas humain ce qu'on vit.
Non, vraiment pas.
Tu vois ce que je veux dire? D'avoir l'attention de...
C'est ça.
T'es dans une salle, il y a 1000 personnes et les gens, ils parlent. Il y a que toi et tu parles et les gens, ils t'écoutent.
Puis de l'amour d'inconnu, tu connais.
Voilà, exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est toute cette gestion de... Toute la gestion de ça et tout, donc...
C'est vrai que c'est...
J'ai appris... Ouais, voilà, là-dessus, c'était... Je pense qu'on... J'ai appris beaucoup de lui... Et je pense qu'on on s'est beaucoup supporté mutuellement par rapport, par rapport à tout ça, tu vois.
Très cool. Puis, puis là, c'est ça. Après ça, en 2011, c'est te lancer ton premier one-man show.
Ouais.
Puis, ça il n'a pas été long. Ça a été quoi, un an et demi?
Un an et demi à peu près,
OK.
Un an et demi,
Puis comment ça fait que ça a été court, finalement?
Ben, c'est un peu tout ce que je te dis. C'est que, tu sais, tu te retrouves dans un truc où est-ce que tu as une machine. Et je pense que je ne suis pas encore. Comment je peux t'expliquer? Des gars comme moi, où c'était pas encore vu au Québec.
Tu veux dire un homme noir?
Non, mais...
Ou ton style?
Dans mon style, mais c'est pas juste un homme noir. Okay. C'est genre un homme noir ou un homme de qui te ramène le côté du Québec qui n'est jamais présenté.
OK.
Tu vois ce que je veux dire?
Genre, mettons, le profilage racial, genre.
Ouais, mais c'est plus même en dehors de ça. Mais tu vois, il y a tout un côté même culturel. C'est-à-dire que, tu sais, si tu prends un gars comme Anthony Cavana, ou que tu prends des gars comme Boukar, ou des gars comme Bambara et tout, c'est des gars qu'ils ont toujours réussi à s'adapter au peuple québécois.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Et à se mettre dans un format que, après, la personne, le Québécois, tu sais, on va dire pur laine moyen, tu sais, il va dire: ah, mais non, moi je vois pas la couleur, non, tu sais, ça lui fait oublier que, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était une étape qui était très importante dans l'humour et dans l'évolution de l'humour, dans l'évolution même de la culture québécoise et de comment on a amené, comment le côté un peu plus multiculturel ou plus la diversité est amenée, tu vois ce que je veux dire? Mais après, t'as l'autre génération qui vient après et qui va te dire...
Ouais, qui est toi. Non?
Ouais, genre, qui, moi ou Adib, tu vois, qui va dire: hey, je suis noir, je veux que tu le vois, je veux que tu le reconnaisses, et c'est correct.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'à l'époque où est-ce que j'ai sorti mon premier show, tu sais, c'est pas ce que je disais sur scène, mais c'est ce que je représente.
Ouais.
C'est ce que Adib représente, c'est ce que Mehdi Boussaïdan représente.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? On amène un côté où est-ce que c'est correct d'être québécois, mais pas dans les standards que vous avez toujours connus.
Ouais, c'est ça.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. T'offres de quoi différent.
Voilà, exactement. Mais nevertheless, I'm still québécois. Tu vois ce que je veux dire? Je suis quand même un québécois, un gars d'ici. Tu comprends ce que je veux dire? Genre. Ouais. Mais c'est pas selon les standards que vous connaissez.
Ouais.
Tu comprends? Et quand moi je suis arrivé avec mon show, ben, à Montréal, ça se vendait super bien.
Ouais, c'est ça.
Mais quand t'es arrivé après, loin...
C'est ça.
Plus
tu vas loin en région.
C'est-à-dire que c'était du travail à faire.
Mm-hmm.
Tu comprends? Mais c'est du travail, que ça prend de l'investissement, ça prend de l'argent. Après, tu sors un show. Après, on dit: ouais, ben ça, c'est dans le trou. T'as des dépenses de pub n'importe comment. On va mettre une page dans le journal de Montréal, mais toi, t'es naïf, tu sais pas. Ça fait genre...
C'est ça, puis c'est ton premier show.
Ouais, c'est ton premier show. Tu dis: ah ouais, non, bah, c'est bien, j'ai le journal de Montréal. Ouais. Mais quand tu sais que ton public cible, ils s'en battent les couilles du journal de Montréal.
Ouais.
Donc là, tu viens de dépenser je sais pas combien de milliers de dollars pour rien, tu vois.
Ouais.
Et c'est des trucs comme ça que...
Puis t'apprends dans le tas, genre.
Voilà, exactement, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est pas juste un problème pour moi, c'est un problème pour beaucoup d'autres gens. Et c'est pour ça que il y a d'autres alternatives qui sont arrivées, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode indé, qui s'autoproduisent, qui... Tu comprends? Faut trouver...
Qu'est-ce qui fit avec toi?
Exactement.
Ouais. Puis, OK. Ah, oh, ouais.
So, dis-toi bien que, genre, avec un show, avec une tournée, avec, tu sais, avec des salles qui étaient... Tu remplissais... Tu sais, quand j'étais dans la grande région Mérage, ça va, je remplissais quand même, tu comprends? Bah, dis-toi que je fais plus d'argent sans show qu'avec un show.
Ouais, c'est ça. Hein?
Et c'est pour ça que après ce show-là, moi, ça m'a un peu laissé un goût amer. Et où est-ce que j'ai dit, bah, je me suis pas cassé le cul pour ressortir un autre show tout de suite. Tu vois. Puis même là, tu vois, encore là, ouais. Mokondi, il est prêt, il est là, ouais. Mais tu sais, si c'est pour
moi. Tu vraiment du recul.
Ouais, ouais, ouais. Si c'est pour me, pour que ça soit encore la même formule.
Non, non, tu veux pas rembarquer dans la grosse
non,
machine.
Non, non, c'est pour ça même les rodages. T'as vu, le rodage, je fais des trucs dans des 50 places.
Ouais.
De. Voilà. C'est ouais. Pas, je veux pas.
C'est ça.
Parce que je sais que ça ne fit pas avec moi, puis je sais que. Il n'y a pas encore ce. Tu sais. Le terrain, pour les gens comme moi, il est encore à défricher et on est quelques-uns.
Ah ouais.
Ouais, ouais, tu vois. Et t'as des mecs comme. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des gars comme Adib que j'admire beaucoup, tu vois. Je pense que Adib, c'est pas le top seller au niveau des billets, tu comprends. Mais il marque sa présence parce qu'il fait tellement de choses en même temps.
Ouais.
Et il est tellement talentueux, puis tellement. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, donc, il utilise d'autres médias.
Ouais, d'autres médias. Ouais. Et tu comprends, genre, et à un moment donné, ben. Les gens commencent à suivre et s'habituent, et tu vois, et je pense que c'est un peu la même chose différemment que je fais. Ou est-ce que, bon, tu sais, oui, j'ai pas de show, même sans avoir un show sur la route, tu me vois un peu, puis plus en plus, tu c'est t'habitues ça. À ce que tu me vois dans le décor, et peut-être qu'un jour, je sais pas, je sortirai le show qui va faire genre 300 000 tickets parce qu'on sera rendu là, tu vois.
Ouais.
Tu comment?
Puis ça, tu sais, tu dis que ça t'avait eu un goût amer, un peu de l'humour, ben, du milieu, genre. C'était...
De l'industrie.
Ben, de l'industrie, ouais, ouais plutôt. L'industrie, ouais. Ouais. Milieu, c'était un peu too much.
Ouais, ouais.
Mais, ouais, ça a-tu resté longtemps de même? Parce que t'es encore présent?
C'était dur, surtout avec mon ancien management, justement, qu'on avait ce management-là avec... Le même que j'avais avec Rachid, ça s'était super mal passé, ça s'est mal fini. Il y a eu beaucoup de choses qui sont donc.
J'en avais même pas entendu parler, genre dans les branches là, tu sais.
Ah non, bah c'était quelque chose quoi. Donc voilà quoi. Ouais. Donc je me suis retrouvé dans une passe où j'étais comme fuck, tu vois. Genre parce que.
Ouais. T'as eu à réfléchir. Tu pensais-tu lâcher ou...
Ouais, j'avais même lâché à un moment donné.
Ah oh, ouais?
Ouais, mais ça... En fait, c'était bizarre, c'est que j'avais lâché, mais l'humour m'a pas lâché.
Ah ouais?
Ouais, c'est comme, bah vas-y, bon, c'est bon, j'arrête. Ma fille venait de naître. Man, je recommençais à zéro. Ouais. Complètement à zéro. J'avais un goût amer parce que...
Ouais. Puis ça, on parle de quelle année environ? 2012, genre?
2012. Ma fille est née en 2013, donc on parle de 2013-2014. Tu vois. Tu te rends compte, tu finis, t'avais un one-man show, t'as sorti un film, tu vois, t'as plein de choses comme ça. Et quand même, tu te retrouves à sec, tu te retrouves sur les rotules, tu te retrouves avec...
ça t'a fait mal.
Ouais, tu sais, j'étais comme, ah, c'est bon, j'arrête, mais...
Ah ouais.
Je recevais des coups de fil, ah, est-ce que tu voudrais faire un show tel machin? Je dis, you know what, let's go.
Ah ouais, t'inquiète.
Et après ça, you know what, let's go. Tu commences, genre, et je me rappelle que même...
Peu à peu, genre.
Ouais, peu à peu, ben... C'est au moment où est-ce que je me suis dit, hey, tu sais quoi, j'en ai plus rien à foutre.
Ouais.
Que ça a commencé à débloquer. Ouais. Parce que là, on a commencé à voir plus ma vraie personnalité à travers mes textes, mes...
Ta présence.
Ma présence, tu vois, c'est ça qui a
vraiment... C'est ça, tu dégages, tu sais, que... Quand t'es sur scène, t'as l'air d'en avoir rien à chier. Non, mais c'est comme un peu une attitude laid-back.
C'est plus une attitude que...
Puis là, t'as le gros punch qui arrive. Là,
C'est plus le fait que je me dis... Je vais pas être capable de vendre autre chose que qui je suis vraiment.
Puis c'est ça, en même temps. Là, c'est ça, l'humour, pour moi. T'sais.
C'est ça, tu vois.
Être le pur toi-même. Pour moi, c'est tout le temps un combat envers... qui t'es, tu sais.
Ouais, tu sais, puis je pense que, tu sais, je suis un gars qui aime partager avec les gens.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est important pour moi de partager avec les gens. Et ouais, c'est ça. Donc, tu sais, ça se retransmet sur scène.
Ouais.
Et ce côté-là de moi, où est-ce que genre...
Mm-hmm.
Man, quand j'arrive sur scène, oui, tu sais, j'ai un côté un peu imposant.
Ouais.
Très laid back, mais laid back surtout aussi, je te fais sentir comme, je sais que je suis différent.
Mm-hmm.
Je sais que je suis une autre proposition. Je sais que je viens d'un endroit que peut-être le Québécois moyen, il connaît pas ou qu'il va peut-être voir à la télé de façon péjorative ou négative ou quoi que ce soit. Mais la chose, quand j'arrive sur scène, je te montre aussi que, hey, it's okay, we could still be friends.
Ouais.
On peut quand même être des potes.
Ouais.
Tu comprends? C'est pour ça que, tu sais, l'effet que t'as eu quand on était dans l'ascenseur, quand on s'est croisé à l'ascenseur,
ouais,
juste
ouais,
pour rire.
Ouais.
Mais c'est ça, en fait. C'est, ouais. c'est genre, hey, man, je suis content de te voir, en vrai. Tu vois ce que
ouais.
je veux dire?
Bah, ben, ouais. C'était la première fois que ça arrivait. Moi, j'étais. Ouais!
Et je pense que c'est ça que j'arrive à retransmettre au public. Ouais, ouais. Et puis, tu sais, je pense qu'au niveau de ma carrière, ben, je les gagne okay. une personne à la fois, comme ça,
ouais.
chaud, chaud
ouais,
par
ouais.
chaud. Comme, hey, ben, tu sais, c'est un beau gosse, mm-hmm. voilà, tu sais.
Ouais,
tu
ouais.
ce que je veux dire?
Ouais.
Et voilà, tu sais. Et puis, t'sais, le but, c'est de le faire ici et de le faire à travers le monde, tu
mm-hmm. vois. Donc... Ouais. Mais, tu sais, genre. C'était une de mes questions justement, tu sais, t'aimais une attitude confiante sur scène puis laid back, me disais ça t'as-tu déjà arrivé de douter une fois dans ta carrière, puis là Chris t'sais, tu m'arrives avec un moment donné j'ai lâché, mais c'est
ouais,
l'humour qui m'a ramené
ouais c'est l'humour qui m'a tenu,
c'est quand même fou là,
c'est
ça,
fou hein t'sais. C'est fou
ouais,
parce que j'étais comme fuck, ok ça est là je suis sur les rotules, qu'est-ce que je fasse
ouais.
ma fille voilà tu sais, je me rappelle cette année là j'étais pas mal à la maison que ça focus pas
non non continue, c'est elle enregistre juste une demi-heure, c'est pour ça. Fait qu'il faut okay. que tout à je leur parte.
Ah ok parfait
ouais.
Ouais bah non j'étais à la maison, je m'occupais de ma fille
ouais
et c'est tout franchement
ouais c'était juste ça ouais.
Après je me suis retrouvé j'avais recommencé un emploi vite fait. Ça n'a pas duré.
Oh, OK.
Ouais,
t'avais même repris une autre
job.
Ouais,
ça n'a pas duré.
Ah, oh, ouais.
Franchement, ça n'a pas duré.
Parce que t'es revenu en humour ou...
Juste parce que l'humour ne me lâchait pas.
Ouais, genre. C'est ça.
Ouais, gars, je ne peux pas rentrer aujourd'hui parce que...
Ouais, je vais avoir un show.
Ouais, je vais avoir un show. Je dois... Puis c'était... En plus, c'était toujours des gigs à l'extérieur du pays.
Ah, oh, ouais?
Ouais, c'était genre... Ouais, je dois partir une semaine parce que j'ai un show en Belgique. Ah, ouais, j'ai un show à Paris. Ah, ouais, je dois aller en Haïti.
Fait que toi, tu te promènes vraiment beaucoup. T'as-tu
autant,
fait
le
tour du monde?
Non, pas encore, mais okay. j'aimerais bien... Tu sais, là, j'aimerais bien explorer l'Asie aussi. J'aimerais,
okay.
j'aimerais aussi voir un peu aussi au niveau de l'Australie aussi. J'aimerais savoir ça.
Ben
aussi.
Ouais. C'est en plus, tu joues dans deux langues.
Ouais.
Que c'est super bénéfique pour toi.
Ouais, non, franchement, pas me plaindre.
Ah, très cool. Puis, ouais, c'est ça, à ta minute. Fait que, mais t'aimerais-tu ça, mettons, faire une carrière en France ou de quoi de même?
Ben, là, j'y pense. J'ai exploré le terrain à deux reprises cette année.
Ouais.
Et ça va, ça a été quand même assez concluant. Après, est-ce que ce serait une carrière ou est-ce que... En fait, c'est plus que... C'est pas que je veux devenir une grosse star en France et machin. C'est juste que je pense que j'ai beaucoup plus d'opportunités de travail. Beaucoup de... Puis il y a tellement un plus gros bassin de population que... et beaucoup plus de diversité que... je pense que je me sens moins... Je me sens un peu... J'ai un peu plus de liberté là-bas. Puis comme l'humour a beaucoup changé aussi en France, c'est plus mm-hmm. que c'était avant.
Ouais.
Donc c'est.
Tu seras pas volé tes gains.
Ouais, bah déjà. Ouais, déjà. Donc bah c'est ça en fait. C'est qu'avant, moi, la première fois que j'ai joué là-bas, bah, c'était ça le problème. Tout le monde faisait des gags volés.
Ah ouais.
C'était... Ça m'intéressait pas.
T'étais-tu content qu'il y ait eu toute cette controverse-là en entour de Gad Elmaleh?
Content? Non, parce que ça ouais. fait quand même une mauvaise image pour l'humour français.
Ouais.
Donc là, maintenant, tu sais, à cause de ça, t'arrives aux États-Unis et puis tu dis ouais, ouais. I'm French or I speak French.
Ouais.
T'as comme un peu ce stigma,
ouais,
genre.
C'est ça. Puis même nous autres, qu'on est Québécois, ils nous mettent dans le même bateau, pareil.
Un peu, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu ce risque-là. C'est ça qui est un peu chiant. Et surtout que ça sort à un moment où est-ce que t'as des gens qui s'assurent de faire en sorte que la vraie culture du stand-up soit bien en France. Et mm-hmm. les ponts qu'on a créés entre la France et le Québec aujourd'hui sont des ponts qui n'existaient pas avant, tu vois.
Ouais.
Donc c'est ça qui est un peu nul, c'est que ça vient ternir
ouais.
ça à dire que c'est des histoires qui tu sais, ça aurait été bien que ce serait sorti avant
ouais.
et qu'après ça ces ponts se créent, tu vois.
Ouais.
Ouais, tu vois. Donc
mais en même temps comme... Tu sais, ça prend ça pour justement faire le ménage, me semble.
Ouais, ouais, mais tu sais, genre, je t'explique.
Mettre la pression.
Je t'explique, t'sais. Il y a eu une guéguerre l'été dernier, un peu, entre Mike et puis. et Kader Aoun, tu comprends.
Ouais.
Puis, tu sais, j'étais un peu obligé de me mettre un peu au milieu de
ouais.
tout ça parce que je voulais justement défendre mes potes, collègues avec qui on a créé un pont.
Ouais.
Tu comprends, genre, qui sont des vrais gars qui travaillent vraiment, tu vois. Donc, tu sais, moi, je vois...
T'étais vraiment pognante les deux, là, toi.
Ben, pognante les deux, c'est-à-dire que, tu sais, moi, je vois Mike Ward comme mon grand. Comme, tu sais, nous, dans notre culture, dans la culture africaine, même dans la culture un peu... même française, un peu comment j'étais élevé, c'est que des gars comme Mike, c'est ton grand, c'est le grand frère, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, c'est ça, c'est donc, ton mentor.
Ouais, voilà, tu vois, c'est les gars qui sont là avant toi, c'est tes grands, tu vois ce que je veux dire, c'est les gars qui. T'sais, c'est les gars qui ont défriché le terrain pour toi, c'est avant, ça. Tu vois, tu comprends.
Ouais.
Et donc, tu sais, j'ai dû quand même. Tu sais, je me suis quand même permis d'appeler le grand frère, à dire, hey, tu sais, frère, tu sais, quand t'as fait ce tweet-là, voici ce que ça implique et tout, tu vois. Puis Mike, c'est un gars qui tu sais, il a quand même l'oreille, tu vois. Il peut être très impulsif, mais il a quand même l'oreille. Et puis je pense qu'il a compris. Puis je comprenais un peu d'où ça venait. Mais tu sais, ça aurait pu vraiment aller plus loin. Parce que tu sais, quand son tweet, tu sais, toute personne qui travaille de près ou de loin avec Kader Aoun ne sont plus les bienvenus au Bordel Comedy Club. Mais c'est que Kader, c'est tellement une personne importante pour le stand-up en France depuis. Pas, tu sais, important dans le sens que où est-ce qu'il est placé, genre c'était le centre du stand-up en France pendant longtemps, tu comprends. Alors ça incluait trop de gens, tout le monde a travaillé de près ou de loin avec Kader, tu vois ce que je veux dire. Et jusqu'aujourd'hui il est encore super influent, tu vois. Donc
ça a pas changé grand chose ça pour lui.
Ça je pourrais pas te dire trop, peut-être je pense. Je pourrais pas trop te dire, tu vois. Après bon, regarde, moi je m'en mêle pas trop, tu vois. Écoute, moi voilà, tu sais, genre c'est quand on se croise, moi et lui, c'est il y a un respect mutuel qui est très apprécié, tu vois. Après, bon, voilà, pour la controverse et tout, machin, écoute, c'est un grand garçon, il va se défendre comme il veut, hein, comme il peut, écoute, je vais pas conclure, tu vois ce que je veux dire. C'est lui, tu sais, c'est lui qui sait, c'est lui et Dieu qui connaissent la vérité sur ce qui s'est passé ou comment, machin, tu comprends ce que je veux dire, genre, qu'est-ce que tu veux que je raconte de plus. Et c'est la même chose avec Gad, tu vois, genre, tu vois, c'est voilà, écoute... T'es un grand garçon, tu veux que je te dise quoi? Et dire, ouais, t'as volé, machin, ou bien que genre, à quoi ça va me servir, à quoi ça va te servir? Tu sais, il y a déjà plein de gens qui sont en train de te pointer du doigt, j'ai pas envie d'en rajouter plus, tu comprends? Après, c'est sûr qu'il y a un côté décevant, ça c'est sûr et certain.
Ben, c'est la pire affaire que tu peux faire d'un humoriste à un autre.
Ouais, hein, non, mais clairement, mais tu sais, tu te rends compte que. Aussi, ce qui est fou là-dedans, c'est que c'est pour ça que moi, la France ne m'intéressait pas en humour. C'est que c'était le standard. C'était ça. Moi, quand la première fois que j'ai joué en France, c'était en 2009. Et vraiment, tu rentrais au Jamel Comedy Club et tu voyais les gars qui jouaient dans les soirées régulières et tout. Et c'est tout ce que tu voyais, en fait. C'est tous des mecs qui répétaient des trucs de
Dave Chappelle.
Voilà. Et des fois, même des gars moins connus, mais que genre, hey, mon frère, t'as fouillé YouTube. t'as fouillé YouTube. C'était un peu nul, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus ça. Les mecs, il y a une vraie culture du stand-up. Et tous ces gens-là, même tous ces gens-là qui avaient cette mentalité-là, cette culture-là, ont dû se renligner, tu comprends? On a eu des cas comme ça aussi, genre, on va pas se le cacher.
François Mascotte.
Ça j'entends des rumeurs, mais ça je pourrais pas dire. Ça c'est les grands frères entre eux. tu vois ce que je veux dire. Mais à des gars de mon niveau, t'avais Jérémy Demey, tu comprends, t'avais Jérémy,
ouais, c'est ça, il ouais, avait volé Jérémy. Des gars, ben c'est qu'il
qui,
fait
qui refaisait, exact, mais c'était le standard qui se faisait en France, tu vois ce que je veux dire. C'était comme si c'était,
mais lui, quand il se l'est fait dire, il a arrêté, par exemple.
Ouais, mon gars, c'était chaud. Non, mais c'était chaud. Et tu sais quoi, c'est pour ça que moi, je suis pas envers Gad et envers ou même Kader ou d'autres. C'est pour ça que je suis pas aussi virulent. Je suis pas aussi virulent parce que, mettons, tu prends un gars comme Jérémy Demey. Moi, tu sais que j'ai beaucoup d'admiration pour Jérémy Demey. Parce que quand t'as cette tâche-là sur toi, c'est chaud l'enlever.
Ouais.
C'est chaud.
Ouais.
Et le mec, Mon frère, il a bossé, mais bossé. Mmh. Bossé dur pour être où est-ce qu'il est et faire renverser la vapeur et reprendre sa crédibilité. Mmh. Tu vois ce que je veux dire?
Mais ça avait-tu sorti ça dans une nouvelle comme quoi que...
Qui, Jérémy?
Ouais.
Non, parce qu'on n'était pas connus à l'époque. C'était vraiment dans le milieu.
Ouais, c'est ça. C'était
vraiment dans le milieu. À l'interne, ouais. Voilà. C'était vraiment dans le milieu, tu comprends? Et le mec, il s'est refait. Il s'est refait comme personne. Eh, franchement, le mec, il a fait un retour du phénix que tu peux que avoir de l'admiration pour ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que je me dis, mon gars, genre, faut aussi laisser la chance aussi des gens de se repentir ou de se refaire ou quoi que ce soit.
Ouais, c'est ça,
tu vois.
La rédemption.
Ouais, voilà, tu vois. Puis, voilà, c'est toujours possible. Après, tu sais, écoute, tu sais, il s'est remis sur le droit chemin, tu vois.
Ouais. Puis toi, c'est ça, Là, ça t'intéresse, la France?
Ouais, ça m'intéresse. Ouais. Ça m'intéresse. Et je suis encore en train de tâter le terrain, mais ça m'intéresse.
OK. Ouais. Tu fais quoi, une coupe de show, là?
J'y étais il y a 2 semaines et j'étais 2 mois auparavant.
OK. Ça, c'est quoi? C'est genre ta boîte qui essaye de te plugger?
Non, c'est juste toi par moi-même. Ouais. C'est justement, comme je t'ai dit, à cause des ponts en question qui ont été créés. Donc,
ton chum là-bas. Là,
ouais,
tu
c'est, c'est les gars, les Jason Brokers, les Fari, les Fadili, tous ces mecs-là.
Il est drôle,
Jason. Ouais, c'est mon gars, ça. Et vas-y, viens jouer à Paris, viens. Viens. Ouais, je sais pas. Viens. J'ai dit, ok, tu sais quoi, j'arrive.
Ouais.
Et là, je commence à jouer, on fait faire tel plateau, machin, tout ça. Puis là, je me rends compte, franchement, ça marche bien.
Genre, tu te bookes un peu, genre.
Ouais, voilà.
Une semaine bien pleine.
Exactement.
Faut pas y aller pour rien.
Ouais, voilà, exactement. Mais après, en même temps, moi, tu sais, je viens de là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc aussi,
il
y a aussi le côté familial aussi qui prend aussi beaucoup de place aussi, tu vois. Donc,
ok. Ouais. Ah, cool. Parce que, tu sais, moi, c'est tellement loin pour moi des projets de même que je sais même pas comment qu'on s'y prend pour que ça soit possible, tu sais. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que je me demandais comment tu faisais, tu sais, toi.
Ben, regarde, je suis en train de faire le truc, donc...
En même temps...
Tu fais juste commencer par quelque part, c'est tout. Tu commences par le milieu, commence par le milieu, et puis...
OK.
Tu trouveras le début et la fin, à un moment donné, tu vois, c'est ça.
Puis là, ça, tu sais, ça, toi, t'es avec Juste pour rire, là.
Je suis en production puis en management avec Juste pour rire.
T'as-tu eu le dilemme quand il est arrivé, tu sais, l'affaire Roson? Est-ce que je reste avec eux autres ou est-ce que je pars ou je veux m'en aller, mais mon contrat me l'empêche?
Non, j'ai pas eu ce dilemme-là. Okay. Moi, je savais que... Ben, c'est pas vrai. J'ai eu, pendant un court instant quand même, je vais pas le mentir, pendant un court instant, j'ai fait « fuck, est-ce que... »
Ouais.
Mais ça a duré vraiment 2 secondes.
Okay.
Après, Juste pour rire est beaucoup plus que Gilbert.
C'est ça.
C'est ce que je veux dire.
C'est ça, il faut que le monde fasse la distinction.
Ouais. Juste pour rire management, qui sont mes managers depuis 2014, je crois. Mm-hmm. 2014-2015 environ. Man, c'est pas des... Tu sais, ça a le logo Juste pour rire, mais c'est 3 personnes dans la boîte.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
C'est indépendant.
C'est complètement indépendant et... Hey, c'est en mode, on se retrousse les manches et on bosse. Fait que quand ça s'est arrivé, moi, je reste avec les gens qui m'ont soutenu quand ça allait pas.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Et que...
Puis vice-versa.
Et vice-versa, tu vois. On a dit, hey, tu sais quoi? Vas-y, on se serre les coudes et on reste ensemble. Et voilà, on pousse et on continue.
Ça a été une crise, par exemple?
Ah non, c'était une crise. Pour moi, c'était super dur. C'était super dur.
Ouais.
Super dur. L'année 2018 était une année... c'était n'importe quoi. Ouais. Pour moi, en tout cas, émotionnellement, sur tous les niveaux, c'était dur.
Ouais.
Même au niveau de tout ça, tu sais, c'était compliqué.
Ouais.
C'était compliqué. Je suis là depuis le début de ma carrière. Donc, je connais les gens qui sont là depuis. Tu sais, je vois un peu comment c'était difficile aussi à vivre pour les gens à l'interne. Avec qui j'ai échangé beaucoup, tu vois.
Il y a plein de dommages collatéraux aussi.
Exactement.
Tu sais, du monde qui n'ont jamais rien fait, mais vu qu'ils sont dans la boîte, ils en deviennent des victimes aussi.
Effectivement, donc.
Ouais. Puis ça fait que tu as quand même décidé de rester avec eux autres puis de continuer à produire ton show.
À produire mon show et puis c'est ça, donc on en est là, donc là c'est juste Puis, tu sais, ils me permettent de prendre mon temps aussi, de savoir comment j'ai envie de le faire et tout. Mm-hmm. Puis, je suis pas pressé, tu vois. Ouais. Je suis pas pressé.
Ouais. T'es ça, tout à l'heure, tu l'as plugué un peu, là, mais t'as eu un premier rôle dans le film Marocain Mongol.
Non, Marocain Gigolo. Ouais,
ouais, Marocain Gigolo, de ça. Ouais. Ça, c'était cool.
C'était cool comme tournage. Ma première expérience sur un long métrage. Ouais. Cool. On est resté 2 mois en Belgique pour tourner ça.
Puis c'est ça, t'étais-tu un premier rôle?
Ouais,
ouais. Ah ouais. Ouais.
C'était moi, François Arnaud, et puis un acteur belge s'appelle Reda. Il y avait Guylaine Tremblay aussi qui faisait.
Guylaine Tremblay, la québécoise,
ouais,
ok.
Était
ouais,
dans la distribution aussi.
Puis, ouais, mais c'est ça.
Mais elle avait un second rôle.
Ok. Puis, mais tu sais. Toi qui n'as même pas eu de formation de stand-up, tu étais refusé à l'école, puis que tu en as encore moins en théâtre, as-tu de la misère à jouer ou ça a-tu été compliqué ou il a fallu que tu prennes des cours?
Non, ça va. Je pense En fait, mon côté layback fait en sorte que j'arrive à rester quand même assez naturel devant la caméra.
Mm-hmm.
Mais faut que le rôle soit proche de ce que je suis déjà.
Ouais.
Mais j'ai des lacunes, je suis pas un super bon acteur, mais il y a quelque chose de naturel que j'ai qui fait en sorte que ça
a de la crédibilité.
Ça a de la crédibilité, tu vois.
OK.
Tu es genre je joue pas gros, je joue pas, tu sais ce que je veux dire? Ouais.
Sauf si t'es dans un gala juste pour rire la première
fois.
Ouais,
voilà, exactement.
Puis là c'est ça, après ça, puis aussi là je pense l'année passée t'as joué dans le film de Denis Arcand, La chute de l'Empire américain. T'es-tu tanné un peu d'avoir ce rôle-là, tu sais, de jouer le chef de gang? Parce que c'est ça que tu jouais,
c'est la première fois que
c'est
je le faisais.
C'était la première fois?
J'ai jamais fait ce rôle-là.
Ouais, ouais. Mais tu sais, ça te gossait-tu que...
Non.
On te pognait ça parce que t'es le grand noir colosse?
Non, parce qu'il y avait quand même...
C'était plus que juste ça. Genre.
Ouais, c'était plus que juste ça. Tu vois, okay. J'étais pas. Tu sais, si c'était vraiment genre le truc typique de. Hey, t'as vu comment j'étais fringué dans le truc? T'as vu comment. Tu vois, il y avait tout un jeu. Il y avait. Fallait que. Tu sais, il y avait quelque chose de psychologique, tu vois, dans le fait que, genre, vas-y, j'ai perdu l'argent. Okay. Moi, même les flics, ils me posent des questions.
Ouais.
Mais la mafia me pose des questions aussi.
Ouais.
Tu commences à le dire? Ouais. Donc. Il y avait ce double jeu-là que...
T'étais pas juste le noir de service. Genre.
Exactement, genre. Okay. Tu commences, c'est pour ça que, genre, ça m'a pas dérangé. Mm-hmm. Tu commences, voilà, quoi.
Ouais. T'as dit en entrevue à un moment donné que tu disais que ça serait peut-être... T'étais pour qu'il y ait des quotas pour avoir plus de multiculturalisme à l'écran.
Ouais, ouais.
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 Puis, ouais, c'est ça, tu veux-tu développer...
Non, c'est pas... Non. Je te taquine. Ouais, parce que si tu le fais pas naturellement... Ça se fait pas naturellement.
Mm-hmm.
Le pire, je discutais de ça avec une de nos collègues, et puis elle me disait, ah, t'as-tu regardé telle série et tout? Je fais, non, je regarde pas.
Ouais.
Je pense qu'elle me parlait d'une... Je pense que c'est la série.
Je sais pas, moi non plus, je regarde pas ça.
Je sais pas. Et elle me disait, mais tu regardes jamais la télé québécoise? Je fais, non.
Ouais.
Elle me dit pourquoi? Parce qu'il n'y a rien pour moi là-dedans.
Ouais.
Il y a rien. Tu sais, si je veux me voir, si je veux voir quelque chose qui me ressemble, je suis obligé.
T'as regardé quoi, américain?
Ouais, il y a Netflix, il y a tout ça, machin. J'ai toutes ces propositions-là. Pourquoi est-ce que je vais aller me casser le cul à me forcer quand la télévision québécoise, elle fait comme si j'existe pas, genre.
Elle te parle pas.
Ouais, tu vois. C'est comme quand il y avait. Tu te rappelles quand il y a eu la pub du 400e de Montréal?
Ouais.
375e, excuse-moi, de Montréal.
Ouais, c'est ça.
Tu te rappelles?
Ouais,
tu te rappelles? Il y avait tout le monde, mais que des blancs. Essaye de marcher dans Montréal et genre tu croises que des blancs non-stop.
Ouais.
Ça se peut pas.
Ben non.
Ça se peut pas.
Mais surtout pas moi. Là. À la seconde que je sors du site, je croise plein de maigrevins.
Ben, tu vois?
Ouais.
C'est ça, Montréal. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais.
Ben, la télé, c'était la même chose. Mais. Tu sais, on doit donner quand même du crédit. Il y a beaucoup d'efforts qui se font en ce moment.
Ouais.
Ils font des efforts. L'effort finit par se faire en ce moment.
Mais quand ça avait été critiqué par Le Monde, puis Gilbert Rozon, il avait accepté le blâme.
Mm-hmm.
T'as dû être content de ça. Au moins, c'était un bon
point. Au moins, il a accepté, tu vois.
Ouais, il a fait un crédit. C'est vrai.
Ouais.
Sorry. On va travailler.
Ouais.
OK.
Mais ouais, donc c'est... Alors, c'est pour ça que...
Tu penses que ça serait un premier pas à faire, ça, qu'il y ait, mettons, un quota ou...
Bah ouais, 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 ouais. Pour que ça soit représentatif.
Mm-hmm.
De... Tu sais, tout... quand t'es une majorité, tu vois pas ton privilège et tu vois pas les avantages que t'as. Mais c'est... Privilège, c'est pas... C'est peut-être pas le mot, mais tu vois pas les désavantages que les autres ont. Mm-hmm. Parce que toi, tu vis dans ton monde, tu sais.
Ouais.
Pour toi, ce que t'as, c'est, ta, c'est la normalité.
Ouais.
Tu comprends ? T'es obligé de faire des efforts pour ceux qui sont de la minorité. Qui, parce que genre, si on te force pas à faire les efforts, tu sais, ça se fera pas tout seul. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a des parkings spécialement pour handicapés,
ouais,
et spécialement pour femmes enceintes.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? Et de la même manière, il faudrait qu'il y ait un certain quota aussi à l'écran pour que forcer à ce que ça soit vraiment représentatif de la vie de tous les jours.
Mm-hmm.
Tu vois ce que je veux dire ?
Oh,
c'est
ouais,
ça, en fait.
Ouais. Puis toi, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait d'autre ? Faudrait-tu qu'il y ait plus de réalisateurs ou de producteurs multiethnique pour que encourager justement ça.
Ouais, ouais, mais je pense que ça va venir petit à petit, tu comprends?
Ouais.
C'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain, mais petit
ouais,
à petit, ça
ben, surtout à force d'en parler aussi, tu sais.
Ouais, 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 à force d'en parler, à force d'oser,
mm-hmm,
tu sais, bah regarde, tu sais, moi je sais qu'il y a des gens, ils ont défriché le terrain pour moi, t'as les Cavana, tout ça, ils ont défriché le terrain pour moi.
Ouais.
Moi, je défriche le terrain pour d'autres. Mm-hmm. Adib fait la même chose.
Et on repousse tout le temps de...
Et voilà, ouais, ouais. Voilà, et demain, t'auras d'autres qui vont faire d'autres choses.
Ouais, ouais. T'as Delino qui va embarquer. Ouais,
voilà, voilà, Delino aussi. Hey, Delino, c'est un... Ouais. Il travaille fort, ah, ce ouais, mec.
Hey, moi, je l'ai vu... tu sais, on a pas mal... Non, j'ai commencé un peu avant lui. Mais tu sais, quand il était arrivé, moi, ça me parlait pas ben. Tu sais, mm, il me cherchait pas qu'est-ce qu'il me disait.
Mm.
Puis là, on a eu un show ensemble récemment pour donner au suivant avec Dave Godet pour
ouais,
donner à tous ceux qui ont perdu les sinistrés de Sainte-Marthe, tu sais.
Mm.
Puis il était là, puis je l'ai trouvé fucking bon, là, t'sais.
Non, 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 Delino, c'est un bosseur.
Ah ouais.
Ouais, c'est un bosseur.
Puis ça me parlait en esti. Puis j'ai été le voir après pour lui dire... à quel point que je l'avais trouvé bon, là, tu sais.
Ouais. Bah écoute, on commence tous quelque part, hein, puis
ouais,
après ça, on avance et c'est tout.
Mm-hmm. Ouais. Mm. Tu sais, vu qu'on est un peu dans ce sujet-là, quoi t'as pensé de la... de, justement, la pièce de théâtre, le Slave?
C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'était un débat ridicule... C'est ridicule qu'on ait eu à faire un débat sur ça.
Ouais.
Et tu vois, c'est un peu ce genre de choses. Est-ce que tu te rends compte à quel point, justement, la diversité, c'est difficile et que t'es obligé de faire des quotas?
Mm-hmm.
Que genre, tu fais une pièce de théâtre qui parle de l'esclavage, t'as un tableau où tu parles de l'esclavage noir et tu utilises des chants d'esclaves noirs. C'est ça le moteur de ta pièce. Même si tu parles d'esclavage ailleurs, machin, le moteur de ta pièce, c'est les chants d'esclaves noir américain,
ouais,
et tu décides de mettre quoi, deux noirs sur tout le cast. Mm-hmm.
Puis les autres, y avait-tu des blackface ou
Non, non, y avait pas de blackface.
Okay.
Ils avaient, mais tu sais, on sait qu'il y a un problème de diversité sur la scène, à l'écran, tout ça,
mm-hmm,
et tu refuses systématiquement de faire l'effort.
Mm-hmm.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Ah, tu penses que c'était intentionnel?
Bah oui, c'était intentionnel parce qu'il y avait, Webster qui était un conseiller qui leur avait dit, parce qu'ils avaient demandé un consultant,
ouais,
pour savoir si ce qu'ils faisaient c'était accurate.
Ouais.
En tant que consultant, il leur a dit, guys,
il faut plus de black. Là.
Vous êtes dans le champ si vous faites ça, c'est inconfortable.
Ouais.
Ils n'ont pas voulu écouter, lui il s'est retiré. Il a dit, moi, je veux pas faire partie de ça, je veux pas mettre mon nom là-dessus.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Puis Webster, il est-tu black, lui?
Ouais, il est métis.
Métis,
okay. Sénégalais et québécois. Ouais.
Okay. Ouais,
donc c'est un noir de Québec, c'est un rappeur et un historien, un vrai historien aussi.
Ah ouais?
Ouais, ouais.
Crime, c'est cool, ça.
Mm-hmm.
M'a cherché, m'a peut-être l'invité à mon podcast.
Tu devrais.
Ah ouais.
Tu devrais.
Moi, j'adore l'histoire. Puis ouais, le rap, ouais, aussi. Tu sais,
c'est un
cool,
véritable historien, donc il a étudié là-dedans.
Ah ouais.
Ouais, ouais.
Ah, très nice. Mm-hmm. Fait que c'est ça, ouais. Puis là, c'est ça, il a été se promener avec son show, puis ça a l'air que ça a continué à faire un peu de la controverse. Là.
Ouais, ben moi, après, j'ai vu même l'émission Tout le monde en parle. où est-ce qu'ils sont, choses, machin, Boniface, il est venu, tout ça. Puis elle est, parce qu'il y avait un mouvement qui s'appelait résistance, un mouvement de résistance de slaves, où est-ce que les gens protestaient, continuent à protester. Mm-hmm. Une fille que j'adore qui s'appelle Elena Studley, elle faisait partie de ce mouvement-là. Et elle est là, tout le monde en parle. Et même comment ils étaient tous sur le plateau, tu comment, sur ce jour de cette émission-là. Tu sais, comme on dit, justement, il y a du mansplaining. Ouais. Bah, il y a du whitesplaining aussi.
Ah, ouais.
Bah, c'était du whitesplaining, genre, sur elle, par rapport à... Tu vois, et quand elle a fait... Et tu sais, j'avais envie de lui dire... J'ai envie d'aller la sauver, lui dire, hey, retire-toi de là, ils veulent pas avoir... Là. Tu peux pas avoir... C'est, tu peux pas avoir une vraie conversation, ouais, quand t'es un noir et vous êtes 10 blancs autour de la, mais, table. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais tout le monde en parle, font ça, tu sais. Ils vont souvent faire ça, t'es... Genre, tu sais, ils vont inviter les autres invités. Tu sais, c'est quasiment fait booker en conséquence qu'ils soient. Tu vas avoir, oui, d'autres mondes contre toi.
Oui, t'sais. Oui, il y a de la confrontation et ça fait, de la, ça fait de la télé.
Tu sais, quand il y avait. Excuse de te couper, non, mais quand il y avait eu Gabrouel qui avait été, là.
Ouais.
Tu sais, t'avais trois femmes en arrière, des victimes d'agressions sexuelles ou des victimes de femmes battues, tu sais.
Ouais.
Fait que, tu sais, pis t'as Gabrouel en avant, pis là, tu sais, c'est. Qu'est-ce qui se faisait reprocher, c'est d'avoir été too much avec sa blague de, ouais, contre Marie-Lou Wolfe.
Ouais.
Fait que là, tu sais, t'as les autres qui font comme « Moi, j'ai trouvé ça vraiment très dégradant. » Ben, c'est sûr.
Ouais, ben.
Fait que là, tu sais, c'est sûr, t'as de l'air d'une marde.
Mais en même temps, Gabrois, frère.
Ouais.
Le gars, je pense qu'il aurait été... Il aurait juste lui et Guilla, ça aurait fait le même effet. Parce que c'était vraiment fucked up ce qu'il faisait, Gabrois.
Ouais, mais par exemple, il était capable de se défendre. Moi, c'est ça que j'aimais, mais tu sais, quand t'as genre 8 personnes contre toi...
Ah, c'est sûr que là,
c'est que là, il faut que tu te débattes là-dessus. Puis là, il y en a un autre qui part, il faut que tu te débattes là-dessus, puis un autre qui part. Fait que là, t'as comme, ouais, trois conseils. Faut que tu sois bright en tabarnak. Ouais,
non, pour je, être comprends, capable. Je comprends. Après,
fait que moi,
je
c'est pour
pas,
ça que j'étais comme... Je défends pas qu'est-ce qu'il a fait, mais j'étais impressionné de voir comment il était capable de bien se défendre,
ouais,
quand même, puis garder le,
ouais,
le focus, ouais, on peut dire.
Mais pour revenir à Elena, bah, ouais, moi je l'ai trouvée courageuse aussi,
ouais,
par rapport puis tu sais, soit dit en passant, en plus c'est le pire, c'est que tu sais, Guilla, c'est un gars que j'aime beaucoup, en plus tu vois, je m'entends super bien avec lui et tout, tu vois.
Mm-hmm.
Il fait son boulot, tu comprends, oh, ouais, il fait son taf, il fait son boulot. Ce truc-là m'avait froissé, mais après, hey, on n'a pas... c'est ça, hein, c'est ça, être humain. On a des opinions différentes, on a, ouais, des façons de voir différentes et tout. Voilà, quoi, tu
ouais,
comprends.
Ouais. Moi, j'avais pas mal tout posé mes questions, mais je voulais terminer parce que tu as fait un statut que j'ai trouvé quand même touchant sur Facebook. Qui était, je sais pas si tu parlais de ton père ou ben c'est Maceda Étienne.
Ah, Maceba Étienne. OK, Maceba Étienne, ouais.
Ouais.
Ouais, c'était mon oncle.
Ah, ton oncle,
ouais,
OK.
Mon oncle.
Parce que ouais, tu disais que c'est lui qui t'avait appris à être fier de toi et
cet oncle là, c'est en fait c'est ouf, il faut aller loin. C'est un peu le père de la démocratie au Congo.
OK.
Ouais, c'est le gars qui s'est toujours battu pour la démocratie pendant 30 ans. Et aujourd'hui, son fils, c'est le nouveau président.
OK.
Donc, mon grand-cousin, c'est le nouveau président du Congo. Et c'est aussi... C'est beaucoup de sacrifices de son père. Et que, voilà, c'est un gars qui s'est toujours tenu pour la justice, le droit, le... la démocratie, il s'est opposé à tous les régimes de dictature qui sont passés. Il a été exilé, emprisonné, battu, torturé, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, on lui a fait. Mm-hmm. Tout. Puis, il s'est toujours... Man, il
tenu
s'est,
debout.
Il s'est toujours tenu debout.
Ouais.
Puis, tu sais, moi, je suis un peu l'astrologie, puis on a la même date de fête en plus. Donc,
okay.
Donc je sais pas si c'est un truc de Sagittaire. Et, mais ce mec-là, franchement, c'était quelque chose.
Ouais.
C'était quelque chose. C'était quelque chose. Et puis malheureusement, j'ai pas pu assister à ses funérailles. Ma mère a été à ses funérailles.
Mm-hmm.
qui était
puis c'est ça, tu... mais lui il était pas ici, il était
non, au Congo.
Il avait été exilé ailleurs.
En fait, il est mort après une opération qu'il a eue en Belgique, mais malheureusement son corps a été entre guillemets exilé pendant 2 ans par l'ancien, par le régime d'avant.
Ok.
Tu comprends?
Ouais.
Ça veut dire entre, donc il est mort en 1er février 2017. On l'a enterré là.
OK. OK, fait que c'est pour ça que tu avais marqué qu'il a pu être enterré dans ses terres.
Exactement.
OK. Exactement, ouais. OK. Ouais. C'est ça que tu disais, parce que tu disais que, tu sais, quand il y en a qui te posent des questions de comment tu peux, quand tu arrives à avoir le courage de garder tes convictions, puis c'est ça, ça venait...
Ouais, c'était...
une motivation, tu sais.
Mais ce gars-là, c'était... C'était incroyable. C'était incroyable comment, genre, ce mec-là, il se tenait debout.
Mm-hmm.
Il avait peur de rien. Il avait pas peur de dire ce qu'il avait à dire.
Mm-hmm.
Tu vois, il avait pas peur de se tenir de... Et tu sais, il est mort à 80 et quelques, tu vois. Et même à ça, il était encore frais, il était encore là, il était encore...
encore presque.
Il était encore... Ouais, ouais, tu commences, c'était... Et tu sais que c'est... Et je pense que c'est... Je veux pas dire des bêtises, mais je pense que ça... Il me semble que c'est la première, le premier Congolais à avoir reçu un doctorat.
Ah oh, ouais.
En plus, ouais. Ouais. Donc c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un. Mm-hmm. C'était vraiment quelqu'un. Mm. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, t'as mon grand cousin qui suit ses traces et qui fait ce qu'il peut, quoi.
Pour, ouais, ouais. Voilà. Puis toi, ça t'as-tu déjà arrivé que t'as eu à ma tante... à mettre de côté genre tes convictions pour ta carrière ou de quoi de même, ou qu'on t'a demandé de le faire?
Jamais, non.
Non?
Jamais, puis je pense pas que je suis le genre de personne à qui on va me le demander.
Te le proposer, ouais.
Ouais, après, tu sais, tu dois faire des compromis, ça fait partie de la vie.
Mm-hmm.
Mais je me rappelle pas d'avoir fait un compromis genre, vas-y, je vais mettre mes convictions de côté.
Ouais.
Non, ça m'est jamais arrivé.
Ouais.
Ça m'est jamais... Je me rappelle pas que ça me soit arrivé. Il y a peut-être des moments où est-ce que peut-être j'ai peut-être dû... Ah, peut-être j'aurais pas dû faire ça après, genre.
Ah oh, ouais.
Juste parce que je dis, ah, ça avait l'air d'une bonne idée sur le coup. Ouais. Mais jamais parce que je dis, ah, tu sais quoi, je vais fermer les yeux là-dessus. Ah, tu comprends? Ouais. Non. Jamais.
Ben, c'était tout pour aujourd'hui. T'as-tu eu du fun, Eddie?
Ouais, c'est cool. Ouais. Good conversation. On a fait combien de temps, là?
1h30.
Ouais, nice.
Ouais,
nice.
C'est cool, en crise. Merci beaucoup pour vrai.
Merci à toi,
d'être venu. Puis, c'est ça, si on veut te voir en spectacle.
C'est diffusé quand, ça?
Ça va sortir environ dans un mois.
Ah!
C'est qui?
Ben, parce que j'ai un truc que j'aurais promu là.
Ah! Oh, okay.
C'est loin. Moi, dans un mois, pas de spectacle, je suis en vacances.
Ah, ok.
Non, mais écoutez, guys, eddieking.net. Il y aura toutes les dates de spectacle.
Ok, c'est là-dessus.
Ouais, ouais, vous pouvez aussi me voir sur les réseaux, sur mes réseaux sociaux.
Ouais, c'est
sur,
ça.
Facebook,
Eddie
Instagram.
King avec un Y.
Ouais. Exactement.
Ouais, voilà. Puis. Ah, cool. Puis ton show, il va sortir en automne, je pense.
Ben, ouais, il va.
Environ.
Environ, ben, écoute, comme
tu
je dis.
Je te laisse le temps.
Je me laisse le temps. Je me laisse le temps. Je suis pas pressé.
Ben, merci encore beaucoup, pour vrai.
Merci
puis,
à toi, chef.
Krim, je te souhaite une bonne continuité, mon chum, puis t'en reviendras.
All right, merci. Man.
Yeah. Bon, ben, merci. Ciao tout le monde. Right. Merci d'avoir écouté, puis à la semaine prochaine. Là. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allen. Yeah. Pou, 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 pou.